Merci, Franeville. Que le Seigneur te bénisse, toi aussi. Bonjour aux participants de notre étude biblique. Comment vous sentez-vous tous ce matin? Bien, j'espère. Amen. Nous avons en quelque sorte, c'est en quelque sorte une annonce de dernière minute qui était faite pour informer les gens de notre présence ici ce matin, parce que je n'avais pas encore établi mon itinéraire à propos du moment précis de mon départ. Et maintenant que c'est décidé pour les 6 prochains mois, alors j'ai pensé qu'on ferait mieux d'avoir un service ce matin, parce qu'il va s'écouler un certain temps avant que je revienne, pour autant que je sache. Peut-être cet automne. Et nous partirons au courant de cette semaine pour Beaumont, au Texas, où nous commencerons une série de 8 ou 10 jours de réunion là-bas, la semaine prochaine. Avec l'appui de l'association des églises indépendantes et d'autres églises. En fait, c'est parrainé par les églises du nom de Jésus, de Beaumont au Texas, où nous avons eu cette glorieuse réunion il y a quelque temps, juste après que cette photo-ci a été prise. Et je sais que là-bas, ils avaient utilisé un wagon de, je crois, 27 wagons, ou plutôt un train de 27 wagons, pour venir aux réunions à Beaumont. C'est là que le maire de la ville et tous les autres étaient descendus dans les rues pour défiler ensemble. Nous avons passé des moments glorieux à Beaumont et nous y retournons la semaine prochaine. Et aussi, nous pensions aller à San Antonio, mais nous n'aurons pas assez de temps pour cela, à moins d'y aller à notre retour. Et de là-bas, nous irons à Phoenix, à Los Angeles et jusqu'à Long Beach. Puis nous reviendrons, si le Seigneur le veut, pour repartir sur la côte Est, tout là-bas en Virginie et en Caroline du Sud. Ensuite, nous reviendrons à Bloomington, dans l'Illinois. De là, nous aurons une rencontre avec les hommes d'affaires chrétiens à l'école secondaire Lane Tech, au cours de la dernière semaine d'avril. Puis, je partirai de là pour aller dans le nord de la Colombie-Britannique, vers l'Alaska, où je serai jusqu'en juin. Ainsi donc, nous espérons passer de merveilleux moments. Ma prière, c'est que l'enquête que je subis depuis un bon moment par le service des impôts au sujet de cette église soit terminée à ce moment-là. Alors je pourrai aller outre-mer, si c'est le cas, dès juin, ce qui serait parfait pour aller en Afrique et passer juin, juillet et août en Afrique. Donc, j'ai vraiment besoin de vos prières. Nous attendons la venue du Seigneur. Tout ceci, c'est si c'est la volonté du Seigneur. Voyez, nous ne savons pas. Nous ne nous sommes pas spécialement sentis conduits à faire tout ceci. Nous avons simplement rassemblé toutes les invitations et avons prié là-dessus. Nous avons demandé au Seigneur dans quelle direction devrions-nous aller. Et c'est ce qui m'a semblé, donc je ne décide pas tout seul. Je laisse les autres y réfléchir et prier là-dessus. Ainsi donc, tout portait à croire que nous nous sentions conduits à aller vers l'ouest, cette fois-ci vers le sud et l'ouest. Alors, comme nous avions des invitations de partout, nous avons donc commencé. Et le premier endroit que j'ai eu à cœur, c'était soit Beaumont, soit San Antonio. Alors, nous avons vérifié et nous avions des invitations pour les deux endroits. Nous avons répondu à une des invitations de Beaumont. Comme ils ont 42 églises qui collaborent ensemble, les pentecôtistes unis et tout, nous nous sommes dit qu'étant donné qu'ils ont une grande salle, il vaudrait mieux leur accorder une dizaine de jours plutôt que 5 jours à chaque endroit. Je pense que c'est mieux si on les rassemble tous au même endroit. Or, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin à Beaumont et là-bas dans la zone pétrolière du Texas. Donc, nous nous attendons à passer de merveilleux moments à Beaumont. Eh bien, nous ne cherchons jamais à privilégier de grands centres et des endroits d'envergure, mais nous essayons d'aller partout où le Seigneur nous conduit à aller, peu importe combien c'est petit ou grand, pourvu que ce soit la conduite du Seigneur. Maintenant, à tout moment, nous pourrions recevoir de lui un appel macédonien et nous pourrions quitter le champ à tout moment pour aller faire ce qu'il nous aura appelé à faire, peu importe l'endroit. Nous avons pris grand plaisir à ces moments de communion autour de la parole de Dieu avec vous tous, tous les braves gens qui sont ici. J'ai confiance que vous serez fidèles maintenant et que vous viendrez à l'Église et obéirez aux enseignements de la Bible qu'apportera notre brave frère qui est ici, frère Neville, que je recommande vivement en tant que serviteur du Seigneur Dieu, qui va de profondeur en profondeur avec Dieu. Et j'en suis si heureux. Et, petite Église, je vous exhorte, au nom du Seigneur Jésus, de croître dans la grâce de Dieu, de demeurer ferme et de regarder constamment en direction du calvaire. D'ôter toute racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser à tout moment. Si jamais vous avez à cœur de faire quelque chose, ou si vous avez une révélation, ou si quelque chose d'inhabituel vous vient à l'esprit, un avertissement ou quelque chose de ce genre, soyez prudent. Satan est sournois et rusé au possible. Voyez, passez cela au crible de la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Voyez, et on remarque des dons et tout qui surgissent dans l'Église et la façon qu'ont ces dons de se manifester. Avant de laisser la chose commencer à se manifester et ainsi de suite, au départ, vous la sentez qui exerce une pression dans votre cœur. Bon, l'ennemi est très sournois. Voyez, et c'est exactement ce qui démolit les églises chaque fois, un don véritable mal utilisé. Voyez, quelque chose que Dieu cherche à faire et qui est mal utilisé. Ça va tout simplement, non seulement ça vous fera du mal, mais ça démolira l'église tout entière. Voyez, examinez la chose, faites-la passer d'un bout à l'autre de la Bible, puis testez-la et voyez s'il s'agit de Dieu ou pas. Continuez à tester et à éprouver la chose. Voyez, elle se conforme parfaitement et concorde tout à fait avec la parole. Après quoi, tout va bien pour vous. Vous voyez, si la parole a dit que la chose serait là et qu'elle se manifesterait de cette façon précise, tenez-vous-en strictement à cela. Ne vous en écartez jamais. Peu importe ce que font les autres, combien authentique ça semble être. Si ça ne trouve pas son reflet dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, laissez cela de côté. Ne prenez aucun risque. Nous sommes au dernier jour où Satan est aussi trompeur qu'il peut l'être. Pardonnez-moi si je donne l'impression de jouer au patron. Je ne le suis pas. Mais j'ai pour vous le même attachement qu'avait Paul autrefois pour son assemblée, quand il a dit « Vous êtes les joyaux de ma couronne ». Quand je traverserai de l'autre côté et que je vous rencontrerai là-bas, dans l'autre pays, dans cet état glorifié, j'aimerais que vous soyez là, à briller comme les étoiles de ma couronne. Voyez, et je veux que vous y soyez. Je veux y être. Je me souviens de la vision où j'ai vu la présence du Seigneur, ou plutôt son peuple de l'autre côté, dans ce glorieux pays. J'ai regardé autour de moi, je leur ai dit, et ils m'ont dit qu'ils me jugeraient en premier par l'évangile que je prêche. J'ai dit, je l'ai prêché exactement comme Paul. Et ces millions de gens se sont écriés, nous nous reposons là-dessus. Vous voyez, eh bien, je veux qu'il en soit ainsi. Et un de ces jours, nous nous y rencontrerons. Dieu ne nous a pas envoyés, frère Neville et moi, pour que nous jouions au patron. Pas du tout. Nous ne sommes que vos frères, voyez-vous, des instructeurs dans l'Évangile. Alors, travaillons tous ensemble. Et à un moment donné, si on doit ramener un don à l'ordre, ou si on doit dire quelque chose à ce sujet, faire des remarques, ou quelque chose du genre, et que la personne qui a ce don ne l'accepte pas, souvenez-vous, si elle le refuse, souvenez-vous, ce don n'était pas en ordre. Ce n'était pas de Dieu dès le départ. L'Esprit de Dieu est toujours disposé à recevoir la correction. Il est doux et humble, bien disposé. Vous voyez, s'il se lève et dit, « Je le ferai de toute façon », vous savez comment parfois, souvenez-vous simplement que les esprits arrogants ne sont pas de Dieu. Voyez, alors pourquoi accepter un substitut alors que tout, la terre entière, est remplie de la gloire de Dieu? Voyez-vous, la véritable puissance de Dieu. Pourquoi accepterions-nous un substitut? Le jour est trop avancé maintenant. Mais souvenez-vous, la Bible dit qu'il viendrait comme un aussi sournoisement que possible et séduirait même les élus, si c'était possible. Voyez? Eh bien, parfois nous pensons que nous sommes les élus, et j'espère que nous le sommes, mais tenons-nous-en strictement à la Bible. Et là, si tout s'accorde avec l'Écriture, et que c'est en ordre avec l'Écriture, et que cela apporte la gloire à Dieu, et fait honneur à l'Église et tout, alors nous savons que c'est de Dieu, parce que la Bible le confirme. Mais notre théorie à elle seule ne le confirmera pas. Ça ne servira à rien. Ça échouera. Alors, si quelque chose nous a frappé, peu importe combien c'est vraisemblable, si ce n'est pas en ordre, si ce n'est pas conforme aux Écritures, débarrassons-nous de cela tout de suite, parce qu'il y a une chose authentique qui attend, vous voyez. Alors, priez maintenant, priez sans cesse, quoi que vous fassiez, priez pour moi, parce que, selon moi, ce sont les dernières fois où nous allons sur les champs de mission. Nous allons maintenant. Et souvenez-vous, de grandes choses sont en train de se produire, et le monde n'en sait rien. Jésus est venu, a vécu, est mort, s'est sacrifié, et retourné dans la gloire, et des millions de gens n'en ont jamais rien su. Voyez, il ne s'agit pas de choses grandioses, il s'agit en fait de « il est venu chez les siens », voyez, et le « que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises », pas à ceux du dehors, à l'Église. C'est l'Église qui reçoit sa secousse. Je voyais les choses autrement, jusqu'au jour où il m'a parlé et m'a fait reprendre la parole, pour me faire voir tout ce que les prophètes avaient annoncé au sujet de la venue de Jean. Il avait été dit, « Les endroits élevés seront abaissés, et les endroits abaissés seront élevés, et que la puissance de Dieu serait à l'œuvre, et que toutes les montagnes sauteraient comme de petits béliers, et les feuilles taperaient des mains. » Eh bien, on aurait dit que quelque chose allait vraiment se produire, voyez. Et que s'est-il passé quand ça s'est accompli? Un vieux bonhomme est sorti du désert, avec probablement une barbe broussailleuse, enveloppé d'une vieille peau de mouton. Il n'y avait pas de commodité là-bas, dans le désert. Il y était depuis l'âge de 9 ans, et là, il en avait 30. Il est sorti du désert d'un pas ferme. Il prêchait la repentance et se tenait debout dans la boue jusqu'aux genoux, probablement sur la rive du Jourdain. C'est à ce moment-là que les endroits élevés ont été abaissés et que les endroits abaissés ont été élevés. Voyez, c'est... Vous devez avoir une compréhension spirituelle. Souvenez-vous, sur cette terre, Dieu n'a jamais résidé et ne résidera jamais dans le tape à l'œil. Il est contre cela. Jamais il ne... Les grands messages ne seront jamais pour rendre célèbre un tel et un tel. Ça ne marche pas comme ça. Ses serviteurs ne travaillent pas de cette manière. Son éclat et sa gloire sont d'en haut. Hier, ou il y a 2 jours, mon bon ami, frère Banks Wood, et moi allions au Kentucky. Dans le Kentucky, il y avait là une policière. Alors il a dit, « Dis donc, on ferait mieux de ralentir », a-t-il dit. « Elle est sévère. » Et j'ai dit, « Oui, c'est vrai. » J'ai dit, « Quand une nation arrive au point où des millions de gens sont employés et qu'il faut prendre des femmes, d'en faire des policières et de les envoyer travailler, et des conductrices de taxi et tout, c'est l'une des grandes tâches sur notre nation. Elle a autant à faire là qu'un lapin dans une bouilloire pleine de graisse. » Voyez, ce n'est tout simplement pas sa place. Et j'ai dit, autrefois, cela me dérangeait tellement. Mais maintenant, je me rappelle. Eh bien, rien d'étonnant. Ce royaume n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas de ce monde. Ils ont, vous, pourquoi les femmes, nos femmes, ne portent-elles pas de cheveux courts, du maquillage, et ne dansent-elles pas le rock'n'roll et toutes ces choses? Eh bien, les gens fréquentent des églises ordinaires et se disent, c'est très bien. Pourquoi? Ils sont américains. Ils sont américains. Ils ont l'esprit américain. Nous ne sommes pas américains. Nous sommes chrétiens. Nous vivons, notre esprit est d'un autre royaume. Si notre esprit était de ce royaume, alors nous adorerions avec ces choses. Et là, nous adorerions toutes ces chansons vulgaires et adorerions tout ce rock'n'roll. Là où est votre cœur, là sera votre trésor. Et nos trésors sont en haut. C'est pourquoi nous nous dirigeons vers un royaume. Ceci n'est pas notre demeure. Nous séjournons simplement ici dans le but d'essayer de faire sortir d'autres citoyens des ténèbres. Il m'arrive d'aller dans une ville et peut-être de faire campagne partout dans cette ville, de labourer pendant 1 semaine ou 10 jours pour une seule précieuse âme qui se trouve là-bas. Une seule, juste une qui se trouve quelque part là-bas. Vous direz peut-être, la réunion a été un grand succès. 5000 personnes sont venues à l'hôtel. Il se pourrait très bien qu'il n'y en ait pas une seule qui soit sauvée. Pas une seule. Voyez, et peut-être que, vous penserez peut-être, seulement 2 personnes sont venues à l'hôtel. Mais il se pourrait que l'une d'elles soit un joyau. Tout ce que nous faisons, c'est de pêcher à la Seine, dans le ruisseau. Dieu choisit le poisson. Il sait lequel est un poisson et lequel ne l'est pas. Alors, vous voyez, nous prêchons tout simplement. Et souvenez-vous que vous faites la même chose dans ce tabernacle. Mais souvenez-vous toujours de ceci. Mes brebis connaissent ma voix. Et la voix de Dieu, c'est sa parole. Je méditais l'autre jour sur ces gens qui disent qu'il n'y a jamais eu de... Une certaine dénomination dit, la guérison divine n'était pas vraie. Personne n'a jamais reçu le don de guérison divine, excepté Saint Paul, ou plutôt les apôtres, les 12 dans la chambre haute. Ils ont reçu le don de la guérison divine. Et c'était tout. Cela a réglé la question. Mais voyez-vous, ce formidable tableau que frère Willie a fait de façon si merveilleuse nous montre que ce petit fil traverse les églises d'un bout à l'autre. Je me demande ce que dit cette même dénomination au sujet de l'histoire de l'Église, au sujet d'Irénée, au sujet de Saint-Martin et de tous les martyrs qui, tout au long des âges, pendant des centaines d'années, suivant la mort des apôtres, ont parlé en langue, ont guéri les malades, ont ressuscité les morts et ont accompli des miracles, l'Église entière. Je me demande ce qu'il en est d'eux, si ce n'était réservé qu'aux apôtres. Vous voyez combien c'est être borné. Ils n'ont pas de compréhension spirituelle. C'est tout, vous voyez, aveugle, mort par le péché et par les offenses. Le mot péché signifie incrédulité. Toute incrédulité est un péché. Si quelqu'un possède un titre long comme ceci, docteur en théologie, en droit, docteur en philosophie, docteur en droit, et qu'il dit que la guérison divine ou le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas, cet homme-là est mort par le péché. Il se peut qu'il soit capable d'expliquer toutes sortes de mystères de la Bible, mais sa vie même, son témoignage, prouve qu'il est mort. Il est mort par le péché et par les offenses, parce qu'il est un pécheur. Le péché, c'est l'incrédulité. Tout le monde devrait. Le péché, ce n'est pas de commettre l'adultère, de fumer des cigarettes, de danser et d'avoir de telles conduites. Ça, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Mais un croyant, peu importe si un homme ne boit pas, ne fume pas, ne fait aucune de ces choses, ne dit jamais de mauvais mots et observe tous les 10 commandements, il peut quand même être noir de péché. Voyez, répugnant au possible. S'il renie quoi que ce soit de la puissance de Dieu, c'est un pécheur. Le mot péché signifie incrédulité. Eh bien, vérifiez cela et voyez si c'est vrai ou pas. Un incroyant à l'égard de la parole de Dieu est un pécheur et il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, oh, je me suis dit ce matin, j'ai pris l'initiative par la volonté du Seigneur, sur l'ordre du Saint-Esprit, de revenir au tabernacle et de vous garder peut-être ici pendant 2 ou 3 heures. En effet, je veux terminer le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse avant de partir. Eh bien, j'espère que ce n'est pas lassant pour vous. J'espère que c'est glorieux pour vous. J'espère que c'est quelque chose qui vous fera du bien et qui vous aidera dans les jours à venir. Et là, peut-être, j'ai dit à Billy de venir ici ce matin et de distribuer des cartes de prière s'il y avait des nouveaux venus parmi nous, parce que nous partirons et je ne sais pas quand nous serons de retour. Dieu se le sait, et je me suis dit que peut-être au cours de la dernière réunion, si, donc, quand il m'a appelé vers 9h et m'a dit, « Papa, il y a quelques personnes qui ont besoin de prière. » Je leur ai demandé, mais, a-t-il dit, « ce sont des gens qui fréquentent régulièrement l'Église. » J'ai dit, « Dans ce cas, ne distribue pas de cartes de prière, tu vois. » J'ai dit, « Parce que ce sont des gens, s'il nous arrive de prier pour les malades ce matin, nous les ferons avancer, afin de prier pour eux. » Mais j'ai dit, « Si ce sont des gens qui fréquentent le tabernacle et que nous connaissons, non, je veux que ce soit de nouveaux venus. » Alors, il a dit, « Il est sorti il y a quelques instants pour venir me rencontrer là. Et il a dit, « Eh bien, j'ai distribué quelques cartes de prière. » Il a dit, « Juste quelques-unes. J'ai distribué des cartes de prière à l'intérieur. » Il a dit, « Tu peux faire comme bon te semble. » J'ai dit, « Eh bien, on verra ce qu'il en sera du message. On verra où on en est. Et là, on avisera. » Il a dit, « Eh bien, naturellement, beaucoup de gens voulaient avoir des cartes de prière. » Mais, a-t-il dit, c'était des gens qui fréquentent l'Église. Voyez? Eh bien, nous savons que Dieu est Dieu. Et, oh là là, il fait tant de choses. Eh bien, le téléphone sonne tout le temps. Les gens ont différents besoins. Ce sont de toutes petites choses, parfois. Et, oh, combien Dieu répond à la prière. Je me demande si cette petite dame de New Albany est ici, ou son mari, ceux qui sont venus me voir à la maison l'autre soir, vers minuit ou une heure, avec un petit bébé atteint de pneumonie et qui suffoquait. Les voilà, très bien. Comment va le bébé? Bien, c'est bon, c'est très bien. Je vais vous montrer, voyez, que c'est quelque chose que vous ne sauriez pas, quelque chose qui n'arrive pas quand le Saint-Esprit parle. Fred Southman, notre précieux frère, Fred, je l'ai entendu dire « Amen » il y a quelques instants, mais je n'ai pas pu le repérer. Où est-il? Est-il ici? Le voici, juste ici, frère Fred Southman. Et pour montrer combien c'est simple, il avait des amis qui venaient, frère Welch Evans, je suppose, je ne sais pas. Ils avaient une remorque, ils avaient verrouillé les portes, et Fred en a perdu les clés. Ils avaient cherché partout, sans pouvoir les trouver nulle part. Père Welch était en route vers ici. Alors est venu le jour où il était censé arriver et tout. Et comme il ne trouvait la clé nulle part, il a téléphoné chez moi et a dit, « Frère Branham, où sont ces clés? Où pouvons-nous les trouver? » Cela pourrait achoper certains d'entre vous qu'un homme pose une question comme celle-là. Mais attendez un instant, vous souvenez-vous des fils d'Isaïe qui cherchaient les mulets? Si donc j'avais un présent, je le lui aurais apporté pour montrer, demander, et je l'aurais offert au prophète, et peut-être qu'il nous dirait où sont ces mulets. Vous en souvenez-vous? Et comme ils marchaient dans la rue, ils ont rencontré le prophète. Il a dit, « Vous cherchez ces mulets. » Il a dit, « Eh bien, retournez chez vous, » a-t-il dit. Ils ont déjà été retrouvés. Pas vrai? J'ai prié. Fred s'est avancé là et a ramassé les clés. C'est tout. Voyez? Frère Ed Dalton, où es-tu? Où est Ed Dalton? Je sais qu'il est ici quelque part. Je l'ai vu tout à l'heure. Oh, là derrière. Le voilà. Il m'a entendu par l'interphone ou le système de sonorisation. L'autre soir, j'ai eu un appel et frère Ed avait de graves problèmes. Je voulais l'aider. Non, a-t-il dit, je voudrais simplement que vous adressiez une requête à Dieu. J'ai demandé au Seigneur de l'aider. Et le lendemain, sa femme a téléphoné pour dire que quelqu'un était venu à son secours. Très bien. Pas vrai, frère Ed? Vous voyez, il est simplement Dieu. C'est tout. Il est simplement Dieu. Vous voyez, ça arrive tout le temps, constamment, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Peu importe le problème, il est Dieu. Nous ne passons pas notre temps à nous inventer. Nous ne sommes pas censés le faire. Que la main droite ou la main gauche ne sache pas ce que la main droite est en train de faire. Nous en parlons entre nous, mais nous ne le crions pas sur les toits. En fait, ce serait de l'orgueil, comme si Dieu ne pouvait le faire qu'avec une seule personne. Il le ferait pour quiconque croira en lui. Il s'agit de croire, d'avoir la foi. Quoi que vous vouliez faire, quelles que soient vos pensées, allez devant Dieu avec cela. Il pourvoit à tout, pas vrai? Donc, il répond aux prières. Dieu est un Père qui répond aux prières. Bon, ainsi donc, je me suis dit qu'en terminant cette série de réunions et tout, comme nous le faisons, nous allions peut-être avoir du discernement à la fin de cette série de réunions, si le Seigneur le veut. Et peut-être au cours de la série de réunions, nous ne savons simplement pas ce qu'il fera. J'aime que ce soit comme ça. N'ayez rien de préétabli. Laissez-le faire comme bon lui semble. Maintenant, prenez le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et arrêtez l'horloge. Oui, oui, frère. Certainement, je crois cela. J'y crois absolument. Tenez, frère Welch Evans, je pense que c'est lui qui est assis là derrière. Permettez-moi de... alors que nous prenons Apocalypse 4. Il n'y a pas longtemps, ici, vous avez tous entendu parler de cette bande à Louisville, et même lu cela dans les journaux, qui volait des voitures et les amène très rapidement quelque part dans le Kentucky. Et dans le Kentucky, vous n'avez même pas besoin d'avoir de titre de propriété. On vous en délivre un dans le Kentucky. Donc, vous n'avez qu'à. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apporter le véhicule là-bas et le vendre. Alors, ils volent des voitures, les y amènent rapidement, les font peindre, ressortent ces voitures et les vendent. La seule chose dont vous avez besoin, c'est le numéro d'identification du véhicule. Et on vous fait un titre de propriété. Donc, ils volent la voiture dans la rue, la font disparaître très rapidement, l'amènent dans un atelier quelque part, changent absolument tout là-dessus, voyez, là, la repeignent et tout, la ressortent et la vendent. Il y a un trafic de voitures, surtout aux États-Unis, d'un bout à l'autre, et la plupart, c'est dans le Kentucky. J'ai lu un article là-dessus dans le journal, il n'y a pas longtemps. Eh bien, le grand et précieux frère Evans, au grand cœur, et sa famille, font tout le trajet depuis Macon, en Géorgie, pour venir jusqu'ici chaque dimanche, afin d'entendre l'Évangile. Oh, quels amis fidèles et véritables! Puis, il va à la cafétéria Miller, où je ne fais pas la publicité de Miller, mais je pense vraiment qu'ils ont la meilleure nourriture du Kentucky, à Louisville, dans le Kentucky en tout cas. En ce qui concerne, là, je ne parle pas de chez vous, dans vos maisons, où j'ai déjà mangé, mais je parle, vous savez, des restaurants. Moi aussi, je mange là-bas. C'est moins coûteux pour moi d'y nourrir ma famille que de le faire à la maison. C'est vrai. Donc, je vais là-bas. Ainsi donc, frère Evans y est allé pour se procurer quelque chose à manger et il a garé sa voiture là-bas. Quand il est ressorti, sa famille et tous les autres, contenant tous ses vêtements, il n'avait plus de voiture ni rien. Tout avait disparu. Eh bien, le pauvre frère Evans est un homme comme nous tous. Il a une petite entreprise là-bas. Il travaille sur des voitures. Il achète des voitures accidentées et les répare. C'est un homme pauvre et il dépense son argent pour venir jusqu'ici parce qu'il croit en ce genre d'évangile. Je prie que Dieu leur envoie un messager là-bas, quelque part, pour les aider dans cette région. Donc, frère Evans est venu et il ne savait plus quoi faire. Il a prévenu la police et ils n'ont pas pu la retrouver. Il est donc venu à la maison en compagnie de frère Fred et des autres. Nous nous sommes assis dans la pièce et en avons parlé. J'ai dit, « Bon, voilà comment nous procédons. Nous nous assoyons dans la pièce, nous examinons ce qui s'est passé, puis nous allons devant Dieu. Alors, nous avons demandé ceci au Seigneur, de faire demi-tour à l'homme qui avait cette voiture, de lui faire demi-tour et de le ramener, peu importe où il pouvait bien se trouver. » D'habitude, il les amène dans les environs de Bowling Green, ou quelque part. Il les amène loin des points chauds, comme ici, voyez-vous, afin de pouvoir, jusqu'à ce qu'il les ait repeintes et retouchées. C'était une belle voiture, un break, je pense. N'est-ce pas, frère Evans? C'était un break. Alors, ainsi donc, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes agenouillés et nous avons prié. Et le Seigneur nous est témoin, c'était très bien. Tout s'est bien passé. Ainsi donc, la puissance du Seigneur est venue sur nous. Frère Evans est sorti et est allé dans une certaine direction où il avait été conduit à aller. Il est revenu ici même, à Jeffersonville. La voiture avait été volée à Louisville. Voici que sa voiture était là, avec juste assez d'essence pour aller. Oh, on en avait consommé l'équivalent de ce qu'il fallait pour aller jusqu'à proximité de Bowling Green et revenir. Ils étaient sortis de la voiture, avaient coupé le moteur, y avaient laissé la clé et s'en étaient éloignés en l'abandonnant sur place, ici même à Jeffersonville, dans un lieu où ils pouvaient la retrouver, pas à Louisville, ici à Jeff. Ils l'avaient ramenée jusqu'ici. Vous savez, le Seigneur peut faire que les oiseaux lui obéissent, il peut faire que les hommes lui obéissent, il peut faire que son ennemi lui obéisse. Oui monsieur, il est Dieu. Voici que sa voiture était là, avec tout son contenu, sauf la moitié du réservoir d'essence, dû au fait qu'il s'était presque rendu à Bowling Green. Et le Saint-Esprit a dû lui dire, « Fais demi-tour, retourne là-bas, amène cette voiture à Jeffersonville. Laisse-la ici dans la rue, garde-la juste ici, parce que je vais l'envoyer par ici, le faire venir par ici pour la retrouver. » N'est-ce pas, frère Welch? C'est vrai, voyez? Il est Dieu. Il répond aux prières. Frère Roy, il est juste. C'est Frère Slaughter. C'est exactement la même chose. Il a guéri votre petit chien. Et je sais qu'il guérit. Il répond aux prières. Il opère toujours des miracles. Il est toujours Dieu. Il a toujours été Dieu. Il sera toujours Dieu. Il est Dieu sur le toit. C'est quoi déjà ce que le frère chante ici à l'église? Dieu dans la cuisine, Dieu à la ferme, Dieu dans l'automobile, il est Dieu partout. Il est Dieu d'un bout à l'autre, il est Dieu. Oh, comme c'est merveilleux, on pourrait se retrouver ainsi en train de prêcher et ne pas aborder cette leçon. Très bien, courbons la tête juste un instant pour prier. Bienveillant Père Céleste, nous sommes tellement épris de ta sainte parole que nos cœurs brûlent au-dedans de nous quand nous nous rendons compte que ton esprit descend au milieu de nous et qu'il nous parle. Et là, nos cœurs s'ouvrent pour saisir cela. Et on dirait que cela nous réjouit tellement, Seigneur. Et de savoir qu'en cette heure sombre où il y a tant de confusion, comme l'a dit le prophète, dans les derniers jours, il y aura une famine, un peu comme ceci. Pas de pain et d'eau, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les hommes voyageront de l'est à l'ouest, du nord au sud, cherchant à trouver la vraie parole de Dieu. La parole. Qu'est-ce que la parole? Jésus est la parole. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, cherchant à voir la manifestation de la vraie parole de Dieu, manifestée selon les Écritures et accomplie. Les gens voyageraient et la chercheraient, mais ne la trouveraient pas. Ô Dieu, nous sommes si heureux de l'avoir trouvée il y a des années. Lui qui est précieux à notre cœur, et de constater que nous ne sommes pas, mais pas du tout, dans la confusion. Ô Dieu, tu as dit, en ce jour-là, ceux qui connaîtront leur Dieu accompliront des exploits. Et nous voici dans les derniers jours, nous voyons tout ce que Jésus a dit qui doit s'accomplir, se manifester ici au milieu de nous. Les signes mêmes, les prodiges et les miracles s'opèrent, s'accomplissant exactement comme il le faisait. Comme il l'a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Et Seigneur, permets-nous par le Saint-Esprit de pénétrer dans la parole, d'en tirer des choses authentiques, de les relier au calvaire par la parole et de voir qu'en lui, nous avons la plénitude. À lui soient toutes les richesses, les bénédictions, la gloire et tout. Lui qui était trouvé digne de venir prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône et qui s'y est assis lui-même, car il était immolé dès la fondation du monde. Nous parlons de lui ce matin, Père. Nous te prions de bénir nos cœurs. Puisse son esprit se mouvoir parmi nous, nous bénir, enrichir notre expérience, guérir les maladies au milieu de nous et nous donner la grâce de vaincre. Et, ô Dieu, comme je parle là-bas, sur les champs de mission, pour affronter l'adversaire, que je sois conscient que je suis entouré d'une garnison, à chaque heure, par la prière. Oh, combien je compte sur cette garnison, car, bien que l'ennemi approche, je sais que cette garnison reste en place, parce que des mères et des pères, des garçons et des filles, des chrétiens nés de nouveau par une expérience, des gens qui sont en route vers le ciel, sont à genoux, en train de prier. Ô Dieu, accorde la délivrance. Alors, Père, nous te prions de nous permettre de percer les lignes de l'ennemi là-bas, afin de conquérir toutes les âmes précieuses qui attendent. Accorde-le, Seigneur. Fais-les passer des ténèbres à la lumière. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Nous avons terminé le chapitre 3. Alors soyons très respectueux, et je tâcherai de ne pas vous retenir trop longtemps. Mais au chapitre 3, l'Église est montée en type quand Jean a été ravi. L'Église est montée Et à partir de ce moment-là, c'est d'Israël dont il est question, jusqu'à la seconde venue. Ne voyez-vous pas de quoi il s'agit? Les gens aujourd'hui, ils disent, quelque chose de glorieux secourra le monde entier et tout. C'est contraire aux Écritures. Non, monsieur, la prochaine chose qui doit arriver, c'est le départ de l'Église. Lisez les âges de l'Église et vous verrez ce que... Ainsi, ces autres choses qui doivent arriver le seront pendant la période de la cérémonie de mariage, quand l'Église est dans la gloire. Dieu revient pour accomplir de grands prodiges, des miracles à l'échelle internationale et tout, par les Juifs. Cela ne s'applique pas du tout à l'Église. L'âge de l'Église se termine au chapitre 3. C'est vrai. Et l'âge de l'Église se termine avec une si petite minorité que nous voyons. Écoutez bien ceci. J'ai relu cela ce matin. Ça m'a presque mis en pièces. La position et l'attitude de Christ à la fin de l'âge de l'Église. Cela se trouve dans Apocalypse 3, du verset 20 au verset 22. Pensez-y, Christ à la fin, où il se trouve. Où se trouve-t-il à la fin de l'âge de l'Église? À l'extérieur de son Église, expulsé par les dénominations et les credos. Quelle est son attitude? Il cherche à revenir à l'intérieur. C'est une situation lamentable. Puis nous voyons ici qu'après ces choses, il entend une voix qui lui parlait et qui, « Oh, qu'était-ce? L'Esprit avait quitté la terre. » Après ces choses, le chapitre 1 commence où le verset 1, « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. » Apocalypse 4, 1, « Après le départ de l'Église, alors une porte a été ouverte. » Nous avons étudié tout cela et avons vu qu'il s'agissait de Christ. C'est lui qui était la porte. Et la même voix qui marchait au milieu des sept chandeliers d'or était exactement la même voix qu'il avait entendu au ciel dire « Monte ici ». Jean est monté. Cela représentait l'Église qui monte dans l'enlèvement. Jean a été ravi en esprit et amené au ciel. Et là, il a vu d'avance toutes les choses que Dieu avait promises. Et il a déclaré aux disciples « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe ?» Il a vu la venue du Seigneur et les choses qui arriveraient. Il a vu sur terre ce qui arriverait sur la terre, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Puis, il était ravi et on lui a montré le déroulement des choses, même ce qui arrivera après le millénium. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Bon, dimanche dernier, nous l'avons laissé au chapitre 4, verset 4. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Eh bien, nous avons vu qu'il s'agissait des anciens. Le mot « ancien » ne se rapporte jamais à un ange ou à tout autre être. Cela se rapporte à un être humain qui a été racheté. Des anciens. En effet, les trônes, les couronnes et la domination ne se rapportent jamais aux anges. Mais les couronnes, les trônes et ainsi de suite, cela se rapporte aux êtres humains. Ces anciens étaient couronnés, vêtus et assis sur des trônes. Et nous avons vu dans d'autres passages des Écritures que c'étaient les 12 apôtres et les 12 patriarches. Il y en avait 20 plus 4, ce qui fait 24. 12 apôtres, 12 patriarches. Et nous avons vu que même la ville qui descend du ciel d'auprès de Dieu, après que la terre aura explosé et qu'elle aura été réduite en morceaux, il n'y aura plus rien d'autre que des cendres volcaniques sur la terre. C'est tout ce qui restera. Il n'y aura plus de mer. La mer se desséchera. Comme je le disais à quelqu'un hier soir, ou hier, quelque part, autrefois, la terre était bien droite, comme ceci, autour du soleil, et sa température était partout la même, de haut en bas. Là-bas, dans les champs de glace britanniques, vous pouvez creuser à 150 mètres de profondeur et y trouver des palmiers. Un refroidissement soudain s'est produit, et ils ont gelé comme le fait la réfrigération aujourd'hui. C'est comme votre système de déshydratation et tout, votre système de congélation et la surgélation qui peuvent conserver vos fraises et tout pendant des années et des années et des années à venir. Voyez, c'est la même chose qui s'est produite en ce temps-là. Soudain, il y a eu la destruction antédiluvienne et toute la Terre a été inondée. Alors les puissances atomiques l'ont fait basculer de son orbite et elle a gelé dans cette position où elle se trouve maintenant. Voyez, si vous creusez, vous pourrez trouver des palmiers et différentes choses dans des zones arctiques et tout. Cela montre qu'elle était jadis magnifiquement habitée et aménagée. Mais maintenant, elle est inclinée. Eh bien, je pense que Dieu disposait de cette eau depuis le commencement, dans la Genèse, dans Genèse 1. La terre était informe et vide, et l'eau se trouvait à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et il a dit « que la lumière soit ». Dieu a séparé le sec d'avec l'eau pour former la terre, mais toute la terre était recouverte. Bon, ce qu'il a fait, il a juste, par les atmosphères, il a juste, l'atmosphère, c'est... L'atmosphère est remplie d'hydrogène et d'oxygène, et ainsi de suite. Alors, il a simplement détaché et élevé cela de la terre. Il n'y avait pas de mer sur la terre à ce moment-là. Dieu arrosait la terre. Il n'y avait même pas de pluie. Il l'arrosait par des sources et tout, par irrigation. Puis, quand il... La seule chose qu'il a faite à ce moment-là, quand l'homme l'a fait sortir de son orbite et qu'elle s'est inclinée d'un côté, que s'est-il passé? Cela l'a basculé vers la chaleur ici en bas et le froid là en haut. Et le chaud et le froid, qu'est-ce que ça produit? Nous pouvons ressentir cela ici même, sur les fenêtres. Il fait chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur. Vous voyez la buée? Et la pluie n'est que de la buée, de la transpiration. Et l'eau, c'est des cendres. Et alors, quand il... J'aime le chant qui dit, « Tu as posé ta main sur les prairies, précieux Seigneur. Tu as posé ta merveilleuse main sur le pâturage. Seigneur, tu as fait jaillir la source, dressé la montagne. Ô Seigneur, que ta précieuse main demeure sur moi. Tu as créé les nuages, formé les nuages et produit la pluie. Et de la pluie, tu as créé la mer. Et de la mer, tu as produit les nuages pour nous donner la vie en abondance. La terre et les cieux, tu les as sous ton ordre, Seigneur. Oh, s'il te plaît, que ta précieuse main demeure sur moi. Oh, comme c'est glorieux. Oui, le Dieu du ciel. Alors, en ce temps glorieux, elle est maintenant inclinée comme ceci. Et il nous a fait une promesse. Cette fois-ci, ce ne sera plus par l'eau, mais par le feu. Au lieu de l'éloigner, ils avaient éloigné la terre du soleil. Et naturellement, elle s'est refroidie. Si vous la rapprochez du soleil, elle se consumera. Et de même qu'après l'avoir détruite par l'eau et avoir placé un arc dans le ciel, il ne le fera plus. Cette fois-ci, il a promis de la consumer par le feu. Vous y êtes donc, là où il y a le péché et tout ce tape à l'œil et toute cette souillure. Et il n'y a pas longtemps, je chevauchais dans la prairie. Quand j'étais un petit garçon, je laissais aller mon imagination. Je prenais mes livres d'histoire et de géographie et j'imaginais les grandes plaines de l'Ouest. Un jour, me suis-je dit, je vivrai paisiblement et tranquillement dans un lieu où il n'y a pas de péché. Je me promènerai dans les champs et je chasserai à la manière des Indiens. Et là-bas, je mènerai une vie paisible tous les jours de ma vie. Mais maintenant, c'est l'homme blanc est passé par là. Là où va l'homme blanc, le péché l'accompagne. L'homme blanc, c'est le plus grand meurtrier et le plus grand tueur de tous les habitants de la terre. C'est lui, le renégat de toutes les races. Tenez, il n'y a pas longtemps, dans le journal, frère Tom, que voici vient de l'Afrique. J'ai vu une coupure de journal, il y a 2 semaines, je crois. Il disait, ça disait, si on continue de donner aux Américains l'autorisation d'aller en Afrique, dans 10 ans, le grand lion d'Afrique aura complètement disparu. Les éléphants aussi. Ces renégats tirent sur tout ce qui est à leur portée. J'ai une photo de 2 gros mâles qui essayaient de soutenir un mâle blessé. On aurait dit que des larmes leur coulaient des yeux. Ils ne voulaient pas que Ces mâles ne voulaient pas que la femelle meure, et chacun d'eux se servait de son côté pour la soutenir, comme ceci, pour qu'elle ne tombe pas sur son au sol. Elle avait été mise en pièces par une arme à feu. Quelqu'un qui tire, quoi que ce soit de cette façon, ne mérite pas d'avoir une arme à feu à la main. C'est vrai, vous n'avez pas assez de jugeote pour vous en servir. Eh bien, il y a quelques années, j'essayais de pousser un troupeau de wapitis vers mon bon ami, frère Roy Robertson, et tous les autres là-bas, lorsque j'étais guide dans le Colorado. Nous savions que nous avions un beau troupeau. Jeff et moi les observions là-haut depuis des années et des années. Il y avait environ 80 têtes de wapitis dans le troupeau. Ils ont envoyé là-bas quelques bureaucrates de Denver, vêtus de pantalons bouffants et de jambières à lacets. Des chasseurs, voilà qu'ils sont arrivés là, en grand nombre, dans des jeeps et tout. Ils sont entrés là, dans notre territoire. Et j'étais à environ 2 ou 3 kilomètres derrière eux, en train de conduire des wapitis à travers la montagne, alors qu'ils avançaient en formant des troupeaux. Il faut veiller à ce qu'ils soient en file indienne, ces gros mâles et tout. Sinon, votre troupeau va se disperser. C'est comme d'élever du bétail, ou quoi que ce soit d'autre. Nous devrions traiter les animaux sauvages de la même manière. Ils ne sont pas des cibles. Si vous voulez tirer sur une cible, il y a ici des champs de tir où on peut le faire. C'est vrai, c'est une honte de massacrer les animaux de cette manière. C'est un péché, c'est impie. Et j'ai compté 123 impacts de balles, de mitraillettes. Comme ça, ils tiraient tenant l'arme à la hauteur des épaules. Le lendemain matin, frère Banks Wood, ici présent, est monté avec moi sur la montagne. Et j'ai compté 19 animaux couchés là en sang. Ils ne connaissaient rien de la chasse. Si vous tirez de cette manière sur un gros animal, c'est possible que la balle pénètre assez profondément pour le tuer. Ils s'en donnaient à cœur joie. Et bang, 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 ils leur tiraient dessus, les uns à la suite des autres. Eh bien, ils vont mourir. Et qu'est-ce, après que la fièvre s'installe en eux, si vous les retrouvez, ils ne sont plus bons. Ils pourrissent très vite. Et les charognards, les coyotes et tout les dévorent. 19 animaux couchés là, en sang, de gros mâles, des sabots gros comme ça, et du sang qui avait jailli à un demi-mètre de l'endroit où les balles de ces armes à feu les avaient perforés. On ne devrait pas permettre à de tels renégats d'avoir une arme à feu à la main. C'est vrai, il n'a pas assez de jugeote pour se servir d'une arme à feu. Oh, c'est terrible, c'est un péché de faire ça. C'est affreux, mais c'est ça l'Américain. Le Canada, vous, les braves gens du Canada, si l'Amérique continue dans cette lancée, le Canada tombera aussi bas que l'Amérique après un certain temps. Si vous allez dans n'importe quelle région près de la frontière du Canada, vous retrouvez cette atmosphère américaine. Cette Amérique est la prostituée parmi les nations. C'est exactement ce qu'elle est. Et son état actuel se dégradera plus que jamais. Sa fin est proche. La Bible parle de son destin funeste, du sort qui lui est réservé. L'Amérique, dégradée, pourrie, corrompue, bonne à rien. C'est tout à fait vrai. C'était une grande nation. Elle a porté le message de l'Évangile. Qu'est-ce qui l'a rendu ainsi? Le fait d'avoir renié le message de l'Évangile et d'avoir rejeté les vérités. Elle est répugnante. Ne vous en faites pas. Elle est cuite. J'ai vu cela dans la vision. C'est ainsi dit le Seigneur. Elle est cuite. Elle payera pour son péché. À l'époque où l'Amérique était l'Amérique, elle était une grande nation, la plus grande nation que le monde ait jamais connue depuis Israël. C'était l'Amérique. Mais elle s'est vraiment corrompue à présent. Elle a rejeté le message. Elle n'a accepté rien d'autre que... Maintenant, elle s'est retrouvée. Vous pouvez voir où elle en est maintenant. Tout le monde le sait. Les dernières élections montrent où en est son état spirituel. Ah oui, elle ne le sait pas. Maintenant, parlons de ces anciens qui sont assis sur le trône et qui portent une couronne. Là, c'est le verset 5. Nous allons commencer. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Oh, j'aime ça, pas vous? Oh, j'ai l'impression que mon veston me va bien. Vous savez, je veux quand... Oh, je parle du veston spirituel, bien sûr, vous savez, très bien. Du trône. Parlons de ce trône pendant quelques instants. Ici, il ne s'agit pas du trône de miséricorde. Le trône de miséricorde, c'est terminé. Il n'y a plus de miséricorde. C'est sans miséricorde. Comment allons-nous? Comment sera ce tribunal? Le tribunal de Christ, le tribunal. Le jugement du trône blanc, y aura-t-il de la miséricorde à ce moment-là? Aucune once de miséricorde ne sera accordée. Au trône du jugement, vous pourriez crier « miséricorde » jusqu'à épuisement. Et là, vous pourriez tout aussi bien crier dans le vide, parce qu'il n'y aura plus de miséricorde. C'est maintenant le jour de la miséricorde. Bon, revenons un peu ici dans l'Ancien Testament pour voir ce qu'est la miséricorde. Allons voir ce qui est arrivé à ce trône. Ce trône, c'est le tribunal, bien sûr. Et parce la raison pour laquelle il y a de la miséricorde aujourd'hui, c'est que l'expiation recouvre le propitiatoire. Le sang est aussi longtemps que le sang est sur le tribunal. Ce n'est plus le jugement, c'est la miséricorde. Parce que quelque chose est mort pour retenir le jugement. Si vous le voyez, dites « Amen ». Aussi longtemps que le sang est sur le propitiatoire, cela indique que quelque chose est mort pour retenir le jugement. Mais dès que l'Église est enlevée, le propitiatoire devient un tribunal. Ici, vous savez, dans le Nouveau Testament aussi, le sanctuaire, c'est là que le jury, dans le sanctuaire, le juge assis sur le trône, dans le sanctuaire. Eh bien, ce tribunal qui se trouvait dans le sanctuaire s'est rempli de fumée. Qu'est-ce que c'était? C'était le jugement. Comme au mont Sinaï, la miséricorde avait quitté le trône de Dieu. Dieu jugera le monde sans miséricorde. Combien savent cela? Il n'y a qu'une seule chose qu'il reconnaîtra en ce jour-là. Qu'est-ce que c'est? Le sang. C'est la seule chose qui apaise un Dieu en colère. Adam et Ève ont fait une ceinture aussi bonne que n'importe quel méthodiste, baptiste, presbytérien ou pentecôtiste aurait pu faire. Elle couvrait leur nudité, mais Dieu pouvait voir à travers. Alors, il a tué quelque chose et a pris les peaux mortes de l'animal mort et les en a couverts. Le sang devait remplacer cela. C'est ce qui a calmé sa colère. Il a vu le sang et il a reculé. Parce que quelque chose avait donné sa vie. Oh Dieu, réfléchissez à ça. La seule chose capable de faire reculer Dieu, c'est le sang. Et il n'y a qu'un seul sang capable de le faire reculer, celui de son propre fils. Lorsqu'il verra qu'il s'agit du sang de son propre fils, il reculera. Parce que c'est le don que Dieu a donné à son fils, de racheter ceux qu'il a connus d'avance. Alors, c'est ce qui pousse Dieu à révoquer son jugement. Mais quand ce sang sera retiré, que tous ceux qui ont été connus d'avance auront été appelés dans le précieux corps, et que son Église aura été préparée et enlevée, alors la colère de Dieu s'abattra sur les gens. Oh frère, il ne faut jamais vous retrouver là. Que j'affronte une mitraillette, que je sois coupé en morceaux, que je sois scié centimètre par centimètre, qu'il m'arrive n'importe quoi, comme le dit le sermon des chevaliers de Colomb, que l'on me fende le ventre et me brûle dans du soufre et tout, que l'on m'ampute les bras et les jambes, ou quoi que ce soit d'autre, mais que jamais je ne comparaisse devant Dieu à ce jugement du trône blanc. Oh, que j'accepte ce petit trône ici, devant le tribunal de Christ, et que j'accepte son sang. Je n'ai dans mes mains rien à t'apporter, Seigneur. Je ne connais point d'autre source, rien d'autre que le sang de Jésus. C'est tout ce que je connais. C'est toute mon espérance, mon appui. Rien d'autre que le sang de Jésus. Pas étonnant qu'Eddie Perronnet, qu'on ait rejeté ses chansons. Et pourtant, c'était un chrétien, un fervent chrétien. On ne voulait pas acheter ses chansons. Un jour, il a dit, « J'en composerai une. » Et un jour, qu'ils accepteront. Et les gens voulaient que les chants religieux soient plus modernes. Un jour, le Saint-Esprit s'est emparé de lui. Il a saisi la plume et a écrit, « Gloire au nom puissant de Jésus. Que les anges se prosternent. Apportez le diadème royal. Couronnons-le, Seigneur de tous. » car Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Que ce soit l'Église, que ce soit l'ami, que ce soit l'ennemi, que ce soit la nation, que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, que ce soit le bien, ou peu importe ce que c'est, tout le reste est sable mouvant. C'est la seule chose. Tout disparaîtra finalement. Mais Christ est le rocher où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Gardez cela à l'esprit. Remarquez, allons dans Lévitique 16. Revenons loin en arrière et lisons, là, très loin au début de la Bible, dans les lois du Lévitique. Et voyons ici dans Lévitique, Lévitique chapitre 16. Commençons au verset 14 du chapitre 16. Oh, j'aime prendre mon temps sur ces choses pour les faire ressortir. Lévitique 14 ou Lévitique 16, 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Sur le devant du propitiatoire. Observez, nous allons approfondir ça un peu plus tard. Vers l'Orient. N'oubliez pas ces mots. Vers l'Orient. D'où viendra Jésus ? De l'Est, sur une nuée de gloire. Où se lève le S-O-L-E-I-L ? À l'Est. Où se lèvera le F-I-L-S ? À l'Est. Où était placé le propitiatoire ? Vers l'Est. Pourquoi ai-je fait en sorte que vous soyez assis comme ceci, vers l'Est ? Pourquoi ? L'autel est à l'Est. Nous le verrons un peu plus tard. Comme c'est beau. Je vais dessiner cela. J'ai demandé à tous ceux qui le pouvaient d'apporter du papier et tout, afin de reproduire ces cartes que je vais dessiner dans quelques instants. Très bien. Il fera l'aspersion vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Sept fois vers l'Est. Qu'est-ce ? Les sept âges de l'Église seront couverts par le sang. Alléluia ! Le sang de Jésus-Christ y est suffisant, hier, aujourd'hui et éternellement, et dans chaque âge, afin de sauver chaque pécheur, de guérir chaque malade, d'accomplir chaque miracle et chaque signe. Sept fois, tout là-bas, dans l'Ancien Testament, 1490 ans, avant la venue de Christ. Pensez-y, un symbole, sept fois, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang avec du dans le voile et fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les offenses par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux, qui est au milieu de leurs impuretés. Qu'était-ce ? Le propitiatoire. Où sont-ils maintenant ? Et là, à l'intérieur de l'arche, il y avait quoi ? La loi. Et quant à la loi, celui qui transgressait un seul commandement mourait sans miséricorde. Mais étant donné que vous pouviez obtenir miséricorde, il fallait qu'il y ait du sang sur l'autel. On en faisait l'aspersion sur le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'est l'autel où on s'agenouille pour implorer la miséricorde. Que Dieu ne nous laisse jamais ôter cela de nos églises. Cet autel à l'ancienne mode, où les hommes peuvent s'agenouiller et implorer la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde est riche. Elle coule librement du sang du Seigneur Jésus. Maintenant, ça aussi, c'est la miséricorde. C'est le propitiatoire. Mais vous remarquerez qu'ici, il ne s'agissait pas du propitiatoire. puisqu'il y avait des éclairs, du tonnerre et des voix. Il n'y a pas d'éclairs et de tonnerre dans la miséricorde. Ça, c'est le jugement. Prenons Exode, le chapitre 19 de l'Exode, verset 16. Exode, le chapitre 19 de l'Exode, commençons au verset 16. Et il arriva, écoutez ce que, quand Dieu est venu sur le mont Sinaï, et il arriva le troisième jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres, l'éclair et une épaisse nuée sur la montagne, et un son d'une trompette vraiment fort. Le son de la trompette, qu'est-ce que c'est? C'est l'archange. Et tout le peuple, écoutez, tout le peuple était dans le camp, trembla. Le jugement, ils s'étaient mis en marche là-bas, et Dieu leur avait donné la grâce pour voyager. Mais ils avaient réclamé la loi. Dieu voulait qu'ils soient interdénominationnels. Eux, ils voulaient avoir une dénomination, quelque chose au sujet duquel ils pourraient argumenter, au lieu de simplement suivre Dieu et vivre sous sa juridiction, sous sa puissance. La grâce avait pourvu d'un prophète. La grâce avait pourvu d'une expiation, un agneau. La grâce avait pourvu de toutes ces choses. Et pourtant, ils voulaient le jugement. Ils voulaient avoir quelque chose à faire. Dieu a dit, « Rassemble-les et je leur ferai connaître ce qu'il en est. Je leur montrerai ce que c'est. Lisez, écoutez. » Et le son de la trompette a retenti de plus en plus fortement, à tel point que la terre a tremblé. Vous voyez ce qu'est le jugement. Je n'en veux pas. Donnez-moi la miséricorde. Et oui, c'était Exode, le chapitre 19 et le verset 16, frère Fred. Exode 19, 16. Bon, remarquez le verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Oh là là, je veux le rencontrer en paix, pas comme ça. Et ils se placèrent au bas de la montagne, très loin. Souvenez-vous, des limites avaient été fixées tout autour de cette montagne. Même si une vache touchait cette montagne, elle devait mourir immédiatement. On ne pouvait pas venir dans la présence de Dieu. Et Dieu et Moïse fit sortir le peuple. Maintenant, le verset 18, le verset suivant. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, en fumée et ardente, comme une fournaise. Comment est-il descendu? Pas dans sa gloire de la Shekinah, mais dans la colère de ses jugements. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Frère, je ne veux pas être là. Le son de la trompette retentit de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. C'est Moïse qui parlait, pas le peuple. Il tremblait comme des feuilles. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends et fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » Les gens s'assoient au fond de l'église et se moquent de quelqu'un qui parle en langue ou qui danse par l'Esprit. C'en est fini d'eux. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils sont scellés pour toujours. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ne le regardez pas. Soit vous vous tenez loin de cela, soit vous l'acceptez. Nous ferions mieux de laisser ce passage de l'Écriture. Continuez de lire cela. Lisez la suite et voyez ce que Dieu a dit. Et le peuple a dit, « Oh Moïse, parle-nous toi-même, que Dieu ne nous parle plus. » Maintenant, nous aurions souhaité n'avoir jamais demandé ceci. Voyez, que ce soit toi qui nous parle, Moïse. Si c'est Dieu qui parle, nous mourrons tous. Vous voyez, Dieu avait pourvu d'une expiation. Maintenant, la voix du trône. Remarquez, dans ce trône, devant le trône, il y avait les sept étoiles. La voix des étoiles. Des voix. Voyez-vous, il y en avait plus dans Apocalypse 4, ici, ou 5. Nous voyons, du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Non pas une voix, mais des voix, au pluriel. Qu'est-ce que c'était? Dieu qui parlait à l'Église, qui se reflétait au travers des sept esprits. Lorsque les vrais oints de Dieu parlent, c'est la voix de Dieu. Rejeter cela, c'est ôter le chandelier. Voyez, des voix, la voix des sept âges de l'Église, ici au coin, les voix qui parlent avec le tonnerre et les éclairs. De nos jours, ils sont si... Eh bien, nous ne croyons pas qu'il faut dire le mot « enfer » à la chair. Oh, miséricorde! Tellement insipide! Il nous faut des hommes de Dieu, des hommes qui n'ont pas froid aux yeux. Eh bien, tout le monde ne peut pas être un prédicateur, mais vous avez une voix. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, si vous êtes un prédicateur, vous êtes appelé à prêcher à la chair. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes quand même un prédicateur. Mais vivez un sermon devant les gens, que vous viviez votre sermon. Alors, ce sera la voix de Dieu qui jettera l'opprobre sur ceux qui la rejettent. Ils diront, « Nul ne peut accuser cet homme ou cette femme de quoi que ce soit. Ce sont des personnes douces qui vivent. Si jamais il existe un homme de Dieu, c'est bien cet homme ou cette femme. » Voyez, vivez vos sermons. N'essayez pas de les prêcher si vous n'êtes pas appelé à être un prédicateur. Vous allez vous embrouiller et tout mélanger de toute façon. Et vous rendrez les gens confus. Et vous ne saurez plus. Eh bien, vous les détruirez. Et vous vous détruirez aussi. Vivez simplement votre sermon. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien et à le vivre également. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors cessez de le prêcher. Mais vous êtes censé vivre vos sermons. Très bien, il y avait ici des voix. Oh, combien nous avons besoin à Jeffersonville de milliers de voix qui sont vécues. Le tonnerre de Dieu qui gronde dans la douceur et la sainteté, la pureté des vies exemptes de souillure, qui marchent sur la terre aujourd'hui sans tache. Oui, monsieur, de véritables chrétiens. C'est un tonnerre contre l'ennemi. Le diable, peu lui importe combien vous savez crier. Le diable, peu lui importe combien vous pouvez sauter, ou faire ceci, ou pousser des cris. Mais ce qui fait mal au diable, c'est de voir une vie sanctifiée, une vie sainte, consacrée à Dieu. Dites-lui ce que vous voulez. Traitez-le de tout ce que vous voulez. Il reste doux au possible et avance tout simplement. Oh là là, ça le fait tomber à la renverse. Voilà le tonnerre qui fait trembler le diable. Voici un exemple. Eh bien, dites-vous, s'il pouvait prêcher comme Billy Graham, ou Oral Roberts, ou quelqu'un d'autre, un grand orateur influent, il serait... Oh non! Parfois, le diable s'en moque. Il n'y prête pas la moindre attention. Ayez toute la théologie et toute la formation acquise au séminaire que vous voulez. Le diable se tiendra là et en rira. Mais quand il voit cette vie, voyez ses disciples qui étaient là-bas, ce jour-là, auprès de cet enfant fou atteint d'épilepsie. Il disait, « Démon, sors de lui! Démon, sors de lui! Démon, sors de lui !» Le démon se tenait là et disait, « Eh bien, ne voyez-vous pas que vous êtes en train de vous ridiculiser? Voyez-vous ce que vous faites là? Jésus vous a dit, il vous a ordonné d'aller me chasser. Pas un seul d'entre vous ne peut le faire. » Mais frère, quand ils l'ont vu venir, un homme qui avançait calmement. Ah oui, oh là là, il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La peur s'est emparée de ce démon à l'instant même. Il savait qu'il serait obligé de partir. C'est vrai, parce qu'une vie s'approchait. pas seulement un sermon, mais une vie. Il a dit, « Sors de lui !» Oh là là, c'était réglé. Calmement, il savait de quoi il parlait. Il savait ce qu'il faisait. Ainsi donc, des voix, les voix des sept trompettes, étaient les voix des sept étoiles, des sept messagers. Et maintenant, regardez bien ceci. Et sept lampes devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu. Sept lampes. Dessinons un peu cela ici. Le trône, le lieu saint, l'assemblée. Et juste ici, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 étoiles, 7 lampes, 7 messagers, 7 esprits. Cela ne veut pas tout à fait dire que Dieu est dans cet esprit, mais ce sont 7 manifestations du même Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Ici, au trône. Il brille dans chaque âge de l'Église. Cet âge de l'Église-ci reflète ceci. Les voix de Dieu, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, 7. Il y avait des voix et 7 lampes ardentes, 7 esprits, qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous souvenez-vous qu'il y a quelques dimanches, nous avons vu cela, le gros diamant, mais il est taillé de bien des manières différentes pour refléter son feu et ses lumières. C'est ainsi, Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 1. Pas vrai? Alors, à quel moment Dieu a-t-il été créé? Il est le commencement de la création de Dieu. Et Dieu est éternel. Pas vrai? Mais quand Dieu a été créé, quand un petit bébé a été conçu dans le sein d'une mère, une vierge, et il s'est mis à se développer en elle des cellules en vue de former ce petit bébé, c'était le commencement de la création de Dieu. Car Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous et est devenu Emmanuel. Dieu avec nous, le commencement de la création de Dieu. Alors, dans ce grand joyau qui avait été tiré de la poussière, parce qu'il était fait de poussière, pas vrai? Il mangeait de la nourriture comme moi. Il mangeait de la nourriture comme vous. Lui, dont le corps était tiré de la poussière, il était fait de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique. Mais en lui habitait la lumière éternelle. Pas étonnant que les mages aient dit à l'étoile, « Conduis-nous vers ta lumière parfaite. » Elle ne faisait que refléter la lumière de celui qui est la lumière parfaite. Et le voilà, la lumière parfaite de Dieu, le commencement de la création de Dieu. Maintenant, en cela était-il? Comment a-t-il pu se refléter dans ces étoiles terrestres après que les mages l'ont aperçu dans le ciel et qu'elles sont devenues des esprits qui exercent un ministère ici sur la terre? Il était blessé, le grand diamant taillé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que faisait-il? Il reflétait. Tout homme qui se dit serviteur de Dieu et qui nie la guérison divine et sa puissance, cet homme ne tire pas sa lumière de ce diamant. Il ne tire pas sa lumière de ce trône. Parce que cela le reflète comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il se reflète à travers les 7 étoiles et les 7 âges de l'Église. Oh, que Dieu soit loué! Je pense qu'il est convenable pour un ministre d'adorer Dieu à la chair, avec action de grâce, louange, honneur et puissance. Oh, comme c'est réel, comme cela réjouit mon âme, au point que j'ai envie de pousser des cris, de courir et de sauter le plus haut possible, parce qu'il y a en moi quelque chose qui m'a changé de ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je devrais être, ni ce que je voudrais être, mais je sais que j'ai été changé de ce que j'étais autrefois. Quelque chose s'est produit, il s'est passé quelque chose. Et de me tenir ici et de voir cette parole éternelle qui a bravé tous les orages quand ils ont essayé de brûler les Bibles et tout. Elle a tenu bon envers et contre tout parce qu'elle dit « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Près de Chicago, en ce moment, une Bible est posée sur la chaire d'une église. Il y a très longtemps, avant la Première Guerre mondiale, un missionnaire l'avait. Un homme s'était converti. Et il désirait avoir la Bible de ce missionnaire. Il a dit, « Je ne peux pas te donner celle-là. C'est ma mère qui me l'a offerte. » Il a dit, « Quand je serai rentré, je t'en enverrai une. » Il a pris la mer pour rentrer. Et là, un sous-marin allemand a fait sauter le navire. On n'en a retrouvé aucune trace. 2 ans plus tard, très loin sur la côte, des gens ont vu une boîte qui flottait. Certains ont pensé que c'était peut-être un objet qui avait été perdu aux mers. Alors, ils ont récupéré la boîte et l'ont ouverte. 2 hommes qui se promenaient à pied. Et à l'intérieur se trouvait la seule chose qui avait survécu, cette Bible qu'il allait retourner aux missionnaires. Elle est posée sur la chaire d'une église méthodiste aujourd'hui, près de Chicago. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ici, lors de l'inondation de 1937, cette vieille petite église, dont le sol était en terre et tout, on pouvait naviguer par-dessus dans des chaloupes. Les eaux avaient monté très haut. Et ce soir-là, après avoir prêché l'Évangile, j'avais laissé ma Bible ouverte sur la chaire quand je suis rentré chez moi. J'avais prédit qu'une inondation surviendrait. Et j'avais dit, je l'ai vu mesurer 6,70 m de hauteur, au niveau de la rue Spring, ici. Le vieux frère Jim Weishart et les autres se sont moqués de moi. « T'en souviens-tu, frère Georges ?» J'ai dit, il a dit, « Oh, Billy, en 1884, il n'y a eu qu'environ 15 cm sur la rue Spring. » J'ai dit, « J'ai vu un homme descendre des cieux et prendre un bâton à mesurer, le placer là, sur la rue Spring, et dire 6,70 m. » Il a dit, « C'est juste de l'émotion. » J'ai dit, « Je ne suis pas sous l'emprise de l'émotion. » C'est ainsi dit le Seigneur. Demandez-leur combien de mètres d'eau il y avait au-dessus de la rue Spring. 6,70 m, pile. Pile, exactement. Et cette vieille Bible était restée ouverte au passage qui avait servi à la prédication ce soir-là. Il s'était mis à pleuvoir. L'eau s'infiltrait et tout ça. Et cette vieille église, les sièges sont montés tout droit au plafond. La Bible est montée tout droit au plafond. L'eau qui entrait ici avec force et toute cette eau qui montait, la chair est montée tout droit, puis tout est redescendu. Chaque siège s'est replacé exactement à sa place initiale. Et la Bible est restée posée exactement au même endroit, malgré toute cette eau. Et elle était encore ouverte au même chapitre et au même endroit. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Oh, cette Bible a flotté sur cette eau salée pendant 2 ans, sans qu'un seul mot n'en soit sali. Les paroles de Dieu sont vraies. Amen. Je me souviens qu'après ça, le vieux frère Jim Weishart était si heureux de cela que chaque fois qu'il avait mal au bras, il a eu un genre de maladie vers l'âge de 75 ans. Il souffrait de rhumatisme. Si la douleur se déclenchait ici, il courait prendre la Bible, l'ouvrait, la posait là, et sur une autre douleur, par ici. Je suis allé le voir un jour, et il était si couvert de Bibles que je ne pouvais pas voir frère Jim. Il avait des Bibles partout sur son corps. Il a dit, « C'est la promesse de Dieu !» C'est ça. « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Je me souviens que ce vieil homme avait l'habitude de venir me voir. Aucun membre de sa famille n'est ici, je pense. Et je l'aidais un peu, vous savez. Je lui donnais un coup de main, parce qu'il était vieux et qu'il avait besoin d'argent. Il venait me voir. Il m'a dit, un jour, je partais pour le Canada. Je venais juste de franchir le portail. Je me suis retourné et il a dit, « Billy, mon garçon, un de ces jours, à ton retour, le vieil oncle Jim ne traînera plus dans cette rue-ci. » C'était la dernière fois. Alors que j'étais au Canada, j'ai reçu un télégramme. Il venait de mourir là-bas, dans les bras de Sœur Morgan. Il avait eu une crise cardiaque. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Il l'a regardé et il est décédé. Sœur Margot, est-elle ici ce matin? Elle vient d'habitude. Vous la connaissez tous.
Elle avait l'un des cas de cancer les plus graves. Et là-bas, à l'hôpital Baptiste, elle est morte depuis 17 ans. Sur les registres de cette clinique, il est marqué « mourante d'un cancer ». Il y a 17 ans, elle vit au 412 avenue Knobloch et elle est infirmière ici à l'hôpital. Oh, grâce infinie de notre Dieu. Jim Tom Robertson, un avocat à Louisville. Nous connaissons tous Jim Tom. C'est ce qu'il a fait croire ce message. Il est allé là-bas. Son père était l'un des responsables du personnel là, à l'hôpital. Il est allé vérifier pour voir si c'était vrai, qu'elle se mourait du cancer et qu'elle avait été abandonnée et renvoyée à la maison et qu'il se disait là-bas, d'après ce qu'il savait, qu'elle était déjà morte. Son père a investigué de fond en comble. Il a trouvé que cela était la vérité. Et Jim Tom a dit, « C'est faux, elle est juste là-bas, maintenant même. Je peux te conduire à elle. » Oh, oh, il est un Dieu réel, n'est-ce pas? Je suis si heureux qu'il puisse passer par-dessus nos erreurs. Pas vous? Cela nous fait l'aimer de tout notre cœur. Des trônes, des éclairs, quoi? Sept lampes, ou des lampes, ou sept étoiles, qui sont appelées les sept esprits, ce qui signifie la manie, sept manifestations du Saint-Esprit. Dans les sept âges de l'Église, aux sept trônes de miséricorde pour les gens, les voici, sept trônes de miséricorde, sept trônes, sept églises, sept étoiles, sept manifestations, sept esprits, sept lampes. Oh là là, comme Dieu est parfait, chaque... C'est là, dans les nombres de la Bible. Les nombres de la Bible, c'est la chose la plus parfaite qui soit sur la terre. De la Genèse à l'Apocalypse, impossible de trouver le moindre défaut. Dans les nombres de la Bible, il n'existe aucune œuvre littéraire où vous pourrez lire trois passages sans tomber sur une erreur. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Ça fait plus de 200 ans qu'ils essayent d'ajouter une phrase à la prière du Seigneur ou d'en retrancher une. Elle est parfaite. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Ils ont cru qu'ils pouvaient améliorer un peu la prière. Ils chercheront à y glisser ceci, à y ajouter cela, ou à en retrancher ceci. Ça ne fonctionnera tout simplement pas. Vous voyez, elle est parfaite. Toutes les voies de Dieu sont parfaites. C'est pourquoi nous sommes imparfaits. Mais il a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Comment pouvons-nous l'être? Par le précieux sang de Jésus-Christ, en s'oubliant soi-même et en ne vivant qu'en lui. Voilà, comme c'est précieux. Très bien, le verset 6 maintenant, si nous examinons cela. Sept lampes, il y a devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Oh là là, regardez ça, être vivant, rempli Dieu devant et derrière. Maintenant, attendez, il y a devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, il y a quatre, et alentour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Bon, la mer de verre, vous qui allez, je suis là, ce n'est pas vraiment un symbole, mais je vais effacer ceci pour l'instant. Bon. Maintenant, nous voulons étudier ceci un peu. La mer de verre a une représentation dans l'ancien temple, car Moïse avait reçu l'ordre de Dieu de construire le temple sur la terre, comme il l'avait vu dans les cieux. Tout le monde sait cela. Très bien. Bon, laissez-moi dessiner un peu ici. Disons que dans l'Ancien Testament, c'est ici que se trouvait l'arche. Très bien. La chose suivante, c'est ce qu'on appelait le Saint des Saints. Après cela, il y avait ici l'autel, qu'on appelait le lieu saint. Et juste devant ceci, il y avait la mer d'airain, comme on l'appelait. Autrement dit, c'était l'endroit où le sacrifice... Les sacrifices étaient lavés ici, avant d'être reçus sur, à l'autel d'airain ou à l'autel de bronze, là où on brûlait le sacrifice. Maintenant, nous voulons regarder attentivement, là, pour voir où cela se trouvait. Ainsi donc, dans cette mer de verre, était devant le trône et devant le lieu saint. Juste, eh bien, souvenez-vous, les sept chandeliers d'or sont placés ici comme ceci et mis dans une cuve. Voyez, c'est donc leur lumière qui se reflétait ici à l'extérieur du lieu saint. Maintenant, si vous... Non, vous n'avez pas à écrire ça, sauf si vous le voulez. Mais c'est... Il y a autre chose que j'ai moi-même dessiné, que je voulais vous présenter. Ainsi donc, voyez-vous, ceci s'appelait la mer d'Airain. Ce n'était pas vraiment grand, c'était placé plus ou moins à un endroit dans le temple. C'était placé à peu près comme ceci. C'est là qu'était la mer d'Airain. C'était une cuve faite d'Airain. C'est là qu'on lavait les sacrifices. Avant que les sacrifices soient brûlés ou acceptés, ils devaient être lavés. Oh, docteur, n'est-ce pas que ça ferait l'objet de tout un sermon, ça? Oh là là, n'est-ce pas que ça? Ça m'a vraiment frappé. Les laver. Avant qu'un sacrifice soit reçu par Dieu, il doit d'abord être lavé. Comment? Non pas par une émotion, mais lavé par la parole. Maintenant, nous pourrions retourner voir où ce rabbin juif, quand je prêchais ce sermon, où je parlais des eaux de séparation, la vache rousse et l'eau conservée, qui ont servi à produire les eaux de séparation. Et avant même de pouvoir venir à Dieu avec une foi véritable, nous devons d'abord venir aux eaux de séparation. Oui, monsieur, vous devez venir par quoi? La parole. Oh, laissez-moi voir si je peux le dire de manière à ce que vous, chacun puisse bien comprendre cela. Maintenant, activez votre pensée spirituelle. Ôtez votre casque de guerre et activez votre pensée spirituelle maintenant, parce que voici venir quelque chose. Lavez avant que cela puisse être reçu à l'autel. Cela doit d'abord être lavé par les eaux de séparation. Maintenant, prenez rapidement avec moi Éphésiens 5. Maintenez votre page et revenez quelques pages en arrière, dans Éphésiens chapitre 5, verset 26. « Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée. » C'est de l'Église qu'il parle. Vous voyez maintenant, laissez-moi revenir un peu plus en arrière. Revenons au verset 21, pendant que vous cherchez. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous, assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. Si un petit clan s'élève, n'ayez aucun parti pris. Soumettez-vous à toute l'assemblée. Assemblée, si vous commencez à former un clan, soumettez-vous à votre pasteur, dans la crainte de Dieu. » Voyez? Oh, frère! Femmes, soyez soumises à votre mari, comme au Seigneur, parce qu'il est votre Seigneur. Vous, les femmes, combien savent cela? C'est tout à fait vrai. C'est ce que la Bible a dit au commencement. C'est encore pareil. Femmes, sois soumises à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. C'est pareil pour le mari, vous qui êtes mariés, et vous, les adultes, ou vous, les enfants, qui sont en âge de comprendre le fonctionnement de la vie. Vous le savez tous, très bien, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ne la maltraitez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être un mari. C'est vrai. Afin de... Écoutez, voici, saisissez-le maintenant. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la...
That every worshiper that ever gained
Ainsi, chaque adorateur qui veut accéder à ceci doit venir par la parole. Il y en a trop qui viennent autrement. Je crois à ces petites histoires et tout, selon lesquelles votre mère qui est morte il y a longtemps vous attend au ciel. Ça, c'est en ordre, après que la parole a été appliquée. Bien des gens viennent à l'autel parce qu'ils veulent rencontrer leur mère au ciel. C'est très bien, vous devriez le faire. Mais cela ne devrait pas être la raison qui vous fait venir à l'autel. Vous venez à l'autel et vous confessez vos péchés parce que Christ est mort à votre place, par la parole. Alors, tout sacrifice qui ne se fait pas selon la parole n'est pas accepté. Pas vrai? Oh, frère, ça me coûte de le dire. Oh, ça me coûte de le dire. Pardonnez-moi de le dire. C'est la raison pour laquelle Acte 19 se trouve dans la Bible. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous, pas qu'il y ait. Il a dit, alors, comment avez-vous été baptisé? Pourquoi n'avez-vous pas pu entrer ici? Ils sont venus par un autre moyen que la parole. Il a dit, oh, nous avons appliqué la formule, nous avons été baptisés, Jean. Il a dit, ça ne marchera pas. Le baptême de Jean n'était que pour la repentance et non pour le pardon des péchés. Et après avoir entendu cela, ils se sont fait baptiser de nouveau. Pourquoi? C'est par la parole, lavé par les eaux de la parole. La parole dit, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ajoute quoi que ce soit d'autre à cela est faux. Maintenant, mon précieux frère, je sais que c'est aussi enregistré. Maintenant, ne vous énervez pas. Permettez-moi de dire ceci avec l'amour divin. L'heure est venue où je ne peux plus continuer de me taire sur ces choses. Nous sommes trop près de la venue. Voyez, la doctrine trinitaire est du diable. Ce que je dis là, c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Regardez d'où ça vient. Ça vient du Concile de Nicée, lorsque l'Église catholique a pris le pouvoir. Le mot « Trinité » n'est même pas mentionné dans tous les livres de la Bible. Et pour ce qui est de trois dieux, ça vient de l'enfer. Il y a un seul Dieu. C'est tout à fait vrai. Alors, direz-vous, croyez-vous que tous ces gens qui sont des trinitaires sont de l'enfer? Non, monsieur, je crois qu'ils sont chrétiens. Mais leur approche, frère, là, ils sont sincèrement dans l'erreur. Que n'importe quel homme qui voudrait en parler vienne me voir, n'importe où et n'importe quand, un ministre, un évêque, un archevêque, ou quoi que ce soit d'autre. Ceci est enregistré et ça ira partout dans le monde. C'est avec l'amour fraternel que je demande à toute personne dans le monde entier qui m'écoutera par cette bande de venir me voir et me montrer un passage de l'Écriture ou un paragraphe de n'importe quel récit historique qui est un récit authentique, dans lequel quelqu'un a un jour été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, avant l'entrée en scène de l'organisation sous l'égide de l'Église catholique. Et je changerai ma doctrine. Tout le monde se faisait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et mes précieux frères, vos yeux sont aveuglés à ces choses. Priez Dieu de vous donner la lumière. Maintenant, si vous pouvez fournir une écriture pour appuyer cela, je vous attendrai ou j'attendrai votre appel. Vous êtes, vous, après l'écoute de cette bande, vous marcherez volontairement dans l'ignorance spirituelle. Si vous ne me défiez pas à ce sujet, si vous voulez connaître ce qu'est la lumière et ce qu'est l'obscurité, demandons-le à Dieu. Souvenez-vous, je dis que c'est ainsi dit le Seigneur. Si vous croyez que je suis son serviteur, et si ce n'était pas conforme à la parole, ce serait faux. Alors, si ce n'est pas conforme à la parole, il est de votre devoir de venir me corriger, oui, et voir ce qui se produira. Ah oui, c'est une erreur. Je crois que bien des milliers de trinitaires qui croient en trois dieux sont sauvés, parce que c'est tout ce qu'ils savent. Nous en parlerons plus loin dans le message. Eh bien, vous, les frères trinitaires, n'arrêtez pas votre bande, ne sortez pas de la maison. Écoutez ceci, mais restez assis bien tranquillement pendant quelques instants. Vous vous devez de le faire pour vous-même. Vous vous devez de le faire pour votre assemblée. Voyez, n'arrêtez pas de recevoir les bandes. Continuez de vous en tenir à cela. Sondez-le par la parole et voyez si c'est vrai. La Bible dit, examinez toutes choses. Je sais que cela n'est pas populaire. C'était pareil pour Jésus. C'était pareil pour le message. Ça l'a toujours été. Vous m'aimiez quand je venais guérir les malades et les affligés parmi vous. Vous pensiez que c'était bien, de grandes foules, pour augmenter le nombre de gens dans l'Église. Eh bien, Jésus a fait la même chose, jusqu'au jour où il a fallu qu'il leur dise la vérité. Et après qu'il leur a dit, 70 d'entre eux l'ont quitté. Il s'est tourné vers ceux qui étaient restés, les 12, et a dit, « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre a prononcé ces paroles mémorables. « Seigneur, à qui irions-nous? Car seules tes paroles sont éternelles. Et seule la parole de Dieu est éternelle. Montrez-moi donc où Dieu a déjà ordonné à qui que ce soit de se faire baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » Vous prenez Matthieu 28, 19, « Père, Fils et Saint-Esprit ». C'est là où Matthieu a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ». Et si quelqu'un pense que Père, Fils, Saint-Esprit est un nom, cela montre qu'il y a quelque chose qui cloche dans son instruction. Eh bien, que quelqu'un qui n'a fait que des études primaires dise de telles choses à des évêques qui écoutent ceci, « Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom ». Et Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres qui se rapportent au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ. Souvenez-vous, je ne le dis pas avec colère, mais avec amour et avec le respect le plus sacré, avec amour et considération pour tout le corps de Christ, puisque je reçois des invitations de mes frères trinitaires, de partout dans le monde, pour aller prêcher dans leurs assemblées. Mais je ne parle jamais de ces choses-ci quand je suis parmi vous. Je veux être, à moins que vous me le demandiez vous-même. Alors, j'irai avec vous à la paroisse pour qu'on en parle. Mais si c'est devant votre assemblée, ça pourrait causer de l'émoi. C'est à vous de recevoir la révélation et de l'enseigner à votre troupeau. C'est vous qui êtes le berger du troupeau. Je m'adresse au ministre. Si vous ne comprenez pas, venez, asseyons-nous et discutons-en. La Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La mer de verre, c'est là qu'on lavait le sacrifice. Et nous sommes lavés. Oh, n'oubliez pas cela. Nous y reviendrons tout à l'heure. Lavés par l'eau de la parole. Alors, vous devez entendre la parole avant d'entrer là, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen par lequel vous puissiez vous approcher de Dieu. C'est par la foi. Pas vrai? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Elle lave notre conscience. Pas pour rencontrer un homme, pas pour rencontrer un père, pas pour rencontrer une mère, pas pour rencontrer un bébé. Tout cela est vrai, nous le ferons. Mais la première chose que nous devons faire, c'est d'utiliser la voie d'accès pourvue par Dieu. Nous serons lavés quand nous entendrons la parole de Dieu. C'est par la foi que nous marchons. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est vrai. Vous croyez Dieu, vous croyez en Dieu, et dès que vous exprimez du regret, vous êtes déjà pardonné. Comme quand je parlais avec un frère hier, il était un peu confus à ce sujet, et j'ai dit, « Écoutez, frère, si vous dites quelque chose qui blesserait votre épouse, vous auriez immédiatement peine pour elle. Vous êtes désolé de l'avoir fait, c'est que vous vous êtes déjà repenti dans votre cœur. C'est vrai, mais vous devez aller lui en parler. Vous devez aller lui dire, « Chérie, je suis désolé d'avoir dit ça. » À ce moment-là, vous vous êtes entièrement repenti. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Un homme qui irait et dirait, « Je l'ai blessé, ce n'est pas grave. Je lui dirais que je suis désolé, mais au fond, je ne le suis pas. » Là, vous êtes un hypocrite. Voyez, c'est vrai, Dieu n'acceptera jamais cela. Vous devez profondément regretter vos péchés. Alors, quand vous savez que vous regrettez vos péchés, alors viendra la repentance. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le pardon. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est très simple. Dieu a vraiment simplifié la chose. Ici, nous remarquons qu'ici, la mer de verre était semblable à du cristal. Alors, la mer de verre est symbolisée, est un type de la mer d'airain. Au ciel, ceci, c'est la mer de verre. Moïse a vu cela comme une mer de verre, et il a fait ce qu'on appelait la mer d'airain, un autel d'airain, un sacrifice d'airain, un autel d'airain plutôt. Vous savez ce que représente l'airain dans la Bible? Le jugement. Il a fait un serpent d'airain. Que signifie un serpent? Le symbole du serpent représentait le péché déjà jugé. Dans le jardin d'Éden, lorsque ton talon écrasera sa tête te blessera le talon. Et l'airain représente le jugement divin, l'autel d'airain, où l'on brûlait le sacrifice, la cuve d'airain, où on le lavait par l'eau de la parole. Voyez, Élie, en son temps, est sorti, a levé les yeux et a dit, « Le ciel est semblable à de l'airain, le jugement divin sur une nation rejetée. » Oh là là, l'airain, d'airain. Maintenant, nous en sommes maintenant à la cuve. Et vous avez remarqué que cette cuve était vide et qu'elle était aussi claire que du cristal. Pourquoi? L'Église avait déjà été rachetée. Bon, maintenant, nous remarquons par contre qu'un peu plus tard, quand les saints de la tribulation arrivent, on la voit de nouveau remplie de feu. Saviez-vous, aimeriez-vous lire cela? Prenons maintenant Apocalypse chapitre 15, verset 2, et lisons où nous voyons de nouveau ce feu d'airain. Très bien. Puis je vis dans le ciel un autre ange. Je vis dans le ciel un autre signe, exact, grand et admirable. Sept anges tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, c'est la colère de Dieu. Regardez bien. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Maintenant, regardez bien. Et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et la marque, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Oh, le voyez-vous? La période de la tribulation. Oh, êtes-vous pressé? Très bien. Écoutez, observons quelque chose ici. Comment venons-nous? Nous devons venir, cette Église des nations, à cette parole, la mer de verre, l'eau de la parole. Pas vrai? Reconnaître la parole telle qu'elle est écrite. Après quoi, le sacrifice est accepté et de l'intérieur, il est rempli du Saint-Esprit. Qui fait briller la lumière de cet âge. De ceci, ici, il sort du lieu saint pour entrer ici, de l'étoile pour entrer dans ici. Vous saisissez? Remarquez qu'à la fin de cet âge, Jean, quand il a vu la mer d'airain là, elle était aussi claire que du cristal. Qu'était-ce? La parole avait été ôtée de la terre, enlevée dans l'Église, et elle était aussi claire que du cristal. Il n'y avait plus de sang. L'âge de l'Église était terminé. Maintenant, dans Apocalypse 15, le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire les saints qui étaient venus de la tribulation, ceux qui étaient passés par la tribulation, se trouvaient, regardez, debout sur cette mer. Et elle était remplie de feu, de sang, de flammes rouges qui en jaillissaient, le feu de Dieu. Ils avaient vaincu la bête, Rome, son nombre, la lettre de son nom, et son image, la confédération des églises, et était sortie. Et par la prédication de Moïse et d'Élie, ces deux prophètes qui se présenteront à Israël pour en faire sortir ce groupe de gens, ces saints qui passeront par la période de la tribulation. C'est à ce moment-là qu'ils entreront. Vous voyez, l'Église est déjà enlevée à ce moment-là. Mais souvenez-vous que l'épouse est sur le trône. La période de la tribulation, ils vivaient dans des royaumes à l'extérieur et ils ont amené dans la ville tout leur roi, leur honneur et leur gloire. Quand nous étudierons Apocalypse 22, vous verrez cela. Si vous notez cela et que vous suivez le fil, quand nous y arriverons, vous verrez ce que nous voulions dire. Nous n'avons pas le temps de relever chaque petite chose et de l'étudier de fond en comble, mais nous n'en étudierons que les points principaux. Et un jour, peut-être, si le Seigneur le veut, nous aurons beaucoup de temps pour en parler. Maintenant, ces saints venus de la période de la tribulation, ils étaient passés par de grandes tribulations. L'Église ne passera pas par la tribulation. Voyez-vous qu'ils étaient déjà dans la gloire? Et voici les saints venus de la tribulation, les sanctifiés qui avaient, puisque c'est par ma faute et par la vôtre, qu'ils n'avaient jamais entendu la parole. S'ils l'avaient entendue et l'avaient rejetée, ils allaient en enfer. Ils étaient jetés dans les ténèbres du dehors pour avoir rejeté la parole. Mais s'ils ne l'avaient jamais entendue, Dieu est juste. La période de la tribulation leur est réservée. Maintenant, remarquez un instant, des saints lavés par la même parole, parce que c'est le même autel, c'est la même mer de verre et la même parole. Apocalypse 2, 5, Apocalypse 15, ou plutôt versets 2 à 5. Remarquez, juste un instant, maintenant, nous ne leur avons jamais apporté la parole. C'est la raison pour laquelle ils étaient dans cet état. Nous ne leur avons jamais apporté la parole. Nous en serons tenus responsables. Nous ne pourrons donc pas atteindre tout le monde. L'Église, qui a la vérité, ne le pourra pas, dans cet âge. En fait, ils passeront par la tribulation. Ce ne sont pas les saints qui sont morts là-bas, au cours des âges de l'Église. Parce qu'il est dit, ils viennent de la grande tribulation. Or, la grande tribulation survient dans le futur, après que l'Église est rentrée à la maison. Oh, voilà. Oh, j'aime ça. Écoutez, allons un peu plus loin. Je veux voir quel genre de paroles ils ont entendues. Reprenons maintenant le verset 2 du chapitre 15. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, sa marque, le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Maintenant, vous voyez, ils n'étaient jamais entrés, mais ils avaient entendu la parole. Ils avaient entendu la parole. Écoutez maintenant, voyez quelle sorte de doctrine ils avaient entendue et voyez si elle concorde avec l'Église maintenant. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. C'était après que Moïse avait traversé la mer. Et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est cet agneau ?» Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des saints. Voyez-vous qui ils ont reconnu qu'il était ? Pas une troisième personne dans une trinité, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Roi des saints. Écoutez, êtes-vous prêts ? Verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur ? S majuscule E-I-G-N-E-U-R. Elohim. Et ne glorifierait. Qui resterait ? Qui ne craindrait ? Et ne glorifierait ton nom. Ils avaient été lavés par les mêmes eaux que celles dont on vous lave en ce moment. L'écoute de la parole et la foi et la puissance de Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant, c'est l'entière révélation depuis le commencement. Le tout est contenu dans la révélation de qui est Jésus-Christ. Dieu fait chair parmi nous. Ton nom sont grandes et admirables. Qui ne craindra et n'honorera ton nom? Tu es, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Autrement dit, nous voyons ce que cela signifie de ne pas la recevoir. Tes jugements se manifestent. Nous voici donc ici, nous sommes lavés maintenant. Nous sommes en train d'être lavés par l'eau après être passés par la période de la tribulation. Nous avons pris position pour toi et nous avons cru en toi. Et maintenant, nous nous tenons sur la mer de verre et nous t'honorons et te glorifions pour refléter ton Saint-Esprit. Tes lampes sont vraies et tes jugements sont justes. Oh là là, nous pourrions passer une semaine là-dessus. Le baptême du Saint-Esprit. Dessinons quelque chose ici maintenant. Juste un instant, j'ai quelque chose que je veux dessiner. Bon, prenons, pourquoi ne pas commencer exactement là où nous sommes? Maintenant, si nous remarquons, voici un merveilleux tableau. Bon, ici, c'est le Saint des Saints. Très bien. Ici, c'est le lieu saint. Et ici, c'est la première. Avant d'y arriver, il y a là la mer. Très bien. Maintenant, remarquez, comment nous approchons-nous de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu, qui se reflète du Saint des Saints dans le messager de l'âge, du temps de, et ce, dans le temple de Salomon, il y avait un reflet. Les lumières de ces lampes se reflétaient dans cette cuve d'airain. Donc, ici, l'ange de l'âge de l'Église reflète dans cette eau ce qu'est cette personne qui se trouve ici. Il reflète sa miséricorde, ses paroles, son jugement, son nom. Tout se reflète ici, à l'intérieur, où vous êtes séparés par le fait que vous y croyez. Est-ce que vous saisissez? Remarquez comme c'est beau ici. Nous en parlions l'autre jour. Regardez bien, ici. Étant donc justifié par la foi. Très bien. Deuxièmement, après avoir été lavé, sanctifié, et ensuite rempli du Saint-Esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Vous le voyez? Comment était son message? La justification vient de ce que l'on entend. La sanctification, c'est ce que vous faites. Et au regard de ce que vous avez fait pour montrer votre reconnaissance par rapport à cela, Dieu vous a scellé du Saint-Esprit. Maintenant, vous, mon frère Baptiste, je veux vous demander quelque chose. Vous dites, que pouvait faire Abraham de plus que de croire en Dieu? Et Dieu le lui a imputé à justice. C'est tout ce qu'il pouvait faire à ce stade-ci. Il avait cru en Dieu, mais Dieu, pour accepter sa croyance, il lui a donné le sceau de la circoncision et l'a scellé, ce qui montrait que Dieu devait accepter sa foi. Et si vous professez avoir la foi en Dieu et que vous n'avez jamais été scellé par le Saint-Esprit, Éphésiens 4:30, si vous voulez le noter, c'est Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé. Et vous n'êtes pas scellé tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour combien de temps? Jusqu'au prochain réveil? Jusqu'à notre rédemption. Le jour même de la rédemption. Il n'y a pas moyen de s'en éloigner. Vous ne pouvez pas vous en éloigner, parce qu'il ne s'éloignera pas de vous, voyez, car vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les périls, ni la faim, ni la soif, ni la mort, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Paul a dit, « J'en ai la pleine conviction ». Voilà, c'est ça, vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Remarquez, ça nous ramène de nouveau à dimanche dernier. Est-ce que j'ai le temps? Observez ceci. L'esprit, l'âme et le corps. Très bien, vous voyez? Corps, âme, esprit. Maintenant, permettez-moi d'effacer ça et de rectifier quelque chose ici pour vous. Maintenant, je vais dessiner quelque chose ici. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire dimanche dernier, alors je l'ai dessiné moi-même sur ce morceau de papier jaune que voici. Je le fais pour que vous puissiez le noter, afin de voir ce que je veux dire. À vos crayons donc. Maintenant, voici le corps. Voici l'âme, et ceci, c'est le E majuscule S-P-R-I-T, l'esprit, le Saint-Esprit. Très bien. Donc, c'est ce qui nous compose. Si vous remarquez ici, c'est le lieu saint, le saint des saints. Ici, c'est l'autel, le lieu saint. Et ici, c'est la mer, c'est là que vous entendez la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. La séparation, la mer de séparation, la mer qui sépare. Maintenant, remarquez ceci, il n'y a qu'une seule entrée pour accéder ici. Et pour ce faire, vous devez premièrement vous présenter ici. Pas vrai? Eh bien, j'aurais aimé avoir de la place. J'aurais noté ici les vierges, quand le souper des noces, un autre point. Vous voyez comment cet homme est entré ici au souper des noces, par un autre chemin. La porte se trouvait ici. Jésus a dit, « Je suis la porte ». La table de noces était ici, et les gens étaient assis tout autour de cela. Il y avait ici un homme qui n'avait pas un habit de noces. Et quand le roi est arrivé, il a dit, « Comment es-tu entré ici, mon ami? Comment as-tu pu entrer ici ?» Cela montre qu'il n'était pas entré par cette porte. Il était entré par une fenêtre, ou par un moyen détourné, ou par un credo, ou une dénomination. Il n'était pas entré par la porte. En effet, autrefois en Orient, et c'est encore le cas, l'époux qui allait se marier distribuait les invitations et fournissait l'habit de noces à tous ses invités. Oh, comme mon cœur tressaille encore et encore quand j'y pense. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'invite premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Comment avons-nous été appelés? Avant la fondation du monde, nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau, afin que nous puissions voir la lumière, recevoir le Saint-Esprit et y marcher. Nos noms, quand l'agneau a été immolé, ont été mis dans le livre en même temps que le nom de l'agneau y a été mis. Comme nous le verrons un peu plus loin, la Bible dit qu'il a séduit sur la terre tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Remarquez, alors s'il, l'époux se tenait lui-même à la porte et l'invité lui présentait son invitation et disait, « La voici, merci ». Il prenait l'invitation, la déposait là et il le revêtait d'un habit de noces pour que tous soient pareils. J'aime ça, voyez, dans la puissance de Dieu, dans l'Église du Dieu vivant. Les riches, les pauvres, les esclaves, les libres, les noirs, les blancs, les bruns, les jaunes, tous sont pareils, car ils sont revêtus de la même puissance du Saint-Esprit. Voyez? Bon, ça montre qu'il n'était pas passé par la porte. Maintenant, remarquez ici. Oh, si un homme essayait d'aller dans le sein des saints, que quelqu'un, qu'un enseignant de la Bible me le dise, si quelqu'un se mettait à entrer dans ce sein des saints sans passer par ici, il mourait. Un jour, les fils d'Aaron ont apporté du feu étranger, un feu dénominationnel, alors que ce feu n'était pas un feu dénominationnel. Et ils sont morts à la porte. Pas vrai? Ou c'était les fils d'Élie, je crois. Ce sont les fils d'Élie qui l'avaient apporté à l'intérieur. Ils représentaient les fils d'Aaron, qui était le sacrificateur. Bon, il n'y a qu'un seul moyen d'entrer dans le corps. Comment ce corps est-il gouverné? Maintenant, soyez très attentifs, là, et préparez vos crayons. Ici, de ce côté, voici les portes d'accès au corps. 1, 2, 3, 4, 5. L'avez-vous déjà dessiné? Maintenant, la première porte ici, c'est la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût. Et le toucher ou le contact, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Ce sont donc là les sens du corps, pas vrai? Combien le savent? 6 sens contrôlent le corps. Maintenant, après ceci, nous avons une âme. Les sens sont à l'extérieur. C'est le système externe. Maintenant, ici, à l'intérieur, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 attributs dans l'âme. Maintenant, voulez-vous prendre cela en note? Le premier, c'est l'imagination. L'imagination. Le deuxième, c'est la conscience. Le troisième, c'est la mémoire. Le quatrième, c'est le raisonnement. Et le cinquième, c'est l'affection. Maintenant, les avez-vous tous notés? Sinon, dites-le-moi. Les avez-vous tous notés? la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Pour le corps, ce sont les portes d'entrée du corps. Pour l'âme, il y a l'imagination, la conscience, la mémoire, le raisonnement et l'affection. Voilà ces sens ou ces attributs. C'est considéré comme les sens de l'âme. Et l'âme est la nature de l'esprit qui est à l'intérieur. Parce que l'âme ne fait que dégager l'atmosphère de ce qui est à l'intérieur de vous. Ça prend la place de la sanctification. L'âme le fait. Elle se trouve dans la même catégorie. Très bien, maintenant. Tout le monde l'a-t-il pris en note? Très bien. Maintenant, cette porte-ci est unique. Il n'y a qu'une seule porte. Ça s'appelle le libre arbitre. Vous êtes maître de ce qui y entre. Et qu'est-ce que cela fait? Ceci, qu'est-ce que c'est? Le corps qui doit être lavé, la cuve, sanctifié, ici, est rempli du Saint-Esprit, ici. Et ceci redevient le tribunal de Dieu. Et là, Dieu règne dans votre cœur. Et si vous faites quelque chose de mal, vous dites, « Oh là là, j'ai mal agi. » Certaines personnes disent, « Avoir des cheveux courts, ça ne me culpabilise pas. » Les femmes, mettre de la manucure ou du maquillage ou quoi que ce soit d'autre, ça ne me culpabilise pas. Aller aux soirées dansantes, ça ne me culpabilise pas. Dire un petit mensonge, ça ne me culpabilise pas. Jouer au bridge, à une soirée de bridge, ça ne me culpabilise pas. Vous savez pourquoi? C'est qu'il n'y a rien en vous qui puisse vous culpabiliser. Ça ne me donne pas mauvaise conscience. Vous n'avez pas plus de conscience qu'un serpent a des hanches. Alors vous n'avez pas de conscience. Il n'y a rien à l'intérieur pour vous donner mauvaise conscience. Vous êtes du monde. Mais je vous mets au défi de laisser Jésus-Christ venir ici à l'intérieur et d'essayer de faire cela une fois. Frère, vous vous sentirez tellement repris dans votre conscience que vous reculerez et détournerez la tête de cette chose. Aussi vrai que je suis ici devant vous, parce qu'il est saint. Écoutez, je cite l'Écriture. Si vous aimez ces choses qui sont du monde, les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Comment ça? Le libre arbitre. Pourquoi appelez-vous cela le libre arbitre, frère Branham? Parce que cela ramène un homme et une femme dans la même position qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Par rapport à quoi? Aux deux arbres. Le libre arbitre, celui-ci donne la mort. Celui-ci donne la vie. Le libre arbitre. L'immoral, la loi du libre arbitre. Dieu a mis le premier homme, Adam et Ève, ici même avec le libre arbitre. Il vous met dans la même position. Et le seul moyen pour vous d'arranger tout ça ici, c'est par votre libre arbitre. Alléluia! Votre libre arbitre. Vous devez vouloir pour faire la volonté de Dieu. Vous devez vous débarrasser de votre propre volonté et céder la place à la volonté de Dieu. Car voici le seul canal qui mène au cœur. Oh, vous pouvez adhérer à l'Église, vous les baptistes et les presbytériens, et vous les méthodistes et les pèlerins de la sainteté. Vous pouvez parvenir à la sanctification, mais pour faire la volonté de Dieu, vous devez le vouloir par votre libre arbitre, afin de laisser entrer le Saint-Esprit ici pour produire des choses. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades ou s'ils boivent des breuvages mortels et ainsi de suite. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont laissé leur volonté devenir ma volonté. Et les œuvres que je fais, ils les feront aussi. J'espère que vous ne le manquez pas. Il y a une volonté de faire la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, au sujet du lieu saint, de la cuve, voici les lumières, les chandeliers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chacun d'eux a une lumière. D'où tirent-ils leur lumière? Où se reflète leur lumière? Où se reflète-t-elle? Elle ne se reflète pas ici, dans un coin, sur une dénomination. Elle se reflète ici, dans la parole. Ce sont les eaux de séparation. Car la repentance et le pardon des péchés, Luc 24, 49, doivent être prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Comment la repentance et le pardon des péchés étaient-ils enseignés à Jérusalem? Jusqu'où? Ça doit aller partout dans le monde. Repentez-vous, a dit Pierre, dans Actes 2:38, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de votre péché. Ce message doit aller dans le monde entier. Alors viendra la fin. Alors, ce sera la fin. Une fois que ce message-ci aura été proclamé dans le monde entier, comment la lumière de ces chandeliers se reflétera-t-elle sur la dénomination méthodiste, presbytérienne ou pentecôtiste? Eh bien, certainement pas. Elle se reflète ici comme étant le « je suis », pas le « j'étais », pas trois ou quatre personnes différentes. Mais Dieu se trouve là, à l'intérieur. Elle se reflète à chacune de ces églises. Regardez dans le passé et voyez ce qu'ils ont fait. On vient juste de parcourir l'histoire. Il le reflétait tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il sera toujours. Celui qui était, dès que Jean en a eu le moindre aperçu, il a dit « celui qui était, qui est et qui vient, le Dieu Tout-Puissant, la création de Dieu, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. » Voilà la véritable lumière qui doit être reflétée. Le voyez-vous? Amen. Passé midi, et j'ai... Écoutez, dépêchons-nous pour que vous puissiez le noter. Je n'aime pas vous garder trop longtemps, mais je ne sais pas quand je vous reverrai. Voyez, et je veux que vous saisissiez ceci, mes amis. Ça, c'est la vie. Bon, écoutez, ce n'est pas parce que c'est moi qui dis ça. Si je reflète ce genre de « alors je suis », vous comprenez mal ce qui est dans mon cœur. Ce que j'essaye de refléter, ce n'est pas « oh, ceci, c'est juste, vous n'êtes rien ». Ce n'est pas ce que j'essaye de faire. Si vous n'avez pas reçu la lumière, j'essaie de vous diriger vers une lumière ici. Pas à celle-ci, ici, à cette chair, mais celle qui est là, à ce trône. Il faut que ce trône soit dans votre cœur. Et là, vous verrez exactement la même chose qui est reflétée ici. Ceci, en haut, qu'est-ce que c'est? Ça reflète ceci, et cela, et ceci, la parole. Lavé par les eaux de la parole, par la parole. Lavé par les eaux de séparation, des choses du monde, par la parole. La parole dit qu'il est le même, hier et éternellement. Elle ne dit pas, il est le même dans l'âge de la Pentecôte, du temps des disciples, puis dans l'âge suivant, il a changé. Non, il est le même. Voyez, vous ne pouvez pas lui faire dire autre chose. Nous pourrions rester sur l'un de ces points pendant des heures. Mais j'espère que vous saisissez cela maintenant. Si Dieu vous a appelé, vous le saisirez. C'est ce que je crois. Très bien, monsieur. Bon, qu'est-ce que c'est? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'âme, le corps, l'esprit, c'est tout pareil. Maintenant, la lampe reflète la parole. La vraie parole reflète quoi? Que reflèterait cette lampe si elle tirait son reflet de cette gloire de la Shekinah? Elle reflèterait la gloire de la Shekinah. Pas vrai? Si vous avez reçu votre lumière d'un séminaire, vous reflèterez le séminaire. Si vous l'avez reçu d'un séminaire méthodiste, vous reflèterez le méthodisme. Vous reflétez. Si vous l'avez reçu d'un séminaire pentecôtiste, vous reflèterez le pentecôtisme. Mais si vous l'avez reçu de la gloire de Dieu, près du buisson ardent, eh bien, quand Moïse sortait de sa présence, il lui fallait mettre quelque chose sur son visage, puisque les gens ne pouvaient même pas le regarder. Pas vrai? Il était rempli de la puissance de Dieu. Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, ils ont essayé de l'arrêter. Eh bien, c'était comme d'essayer d'éteindre une maison en feu par un jour de grand vent. En éteindre le feu, une maison en feu par un jour de grand vent. Oh, plus il soufflait dessus, plus ça empirait. Eh bien, on ne pouvait pas arrêter cet homme. Là, quand ils l'ont amené devant le tribunal du Sanhédrin, la Bible dit, il se tenait là. Il avait l'apparence d'un ange. Eh bien, je ne pense pas que le mot « ange » signifie qu'il y avait là un certain être. Mais un ange sait exactement de quoi il parle. C'est pareil pour tous les autres anges. Un messager de l'âge de l'Église n'a pas besoin d'aller voir ce que pense le séminaire. Il sait ce que Dieu a dit dans sa Bible, la puissance qui est reflétée pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas peur. Il dit exactement ce qu'il sait être la vérité. Et Dieu se tient juste là et confirme cela par le même genre de miracle et de prodige et par la même parole. Ça, c'est un ange. Étienne s'est tenu là et a dit, « Je sais de quoi je parle. Il a dit, « Homme, ô cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Il a dit, « Lequel de vos pères n'a pas tué les prophètes pour ensuite leur bâtir des tombeaux ? Vous, les dénominations, laquelle d'entre vous n'a pas fait la même chose ?» Voyez, vous construisez de grands châteaux aux murs blanchis, ces morgues et tout ce qu'il y a par ici. Et ensuite, vous parlez de Dieu. C'est vous-même qui le mettez dans la morgue. C'est vous-même qui le mettez dans la tombe. C'est exactement ce qu'il avait mis dans la tombe là-bas. C'était une grande église, semblable à un château blanc. La dénomination, c'était les pharisiens et les sadducéens qui l'y avaient mis et qui ensuite essayaient de lui construire un monument commémoratif. Permettez-moi de vous dire que Christ est un être vivant. Il n'est pas quelque chose qui est mort. Il est celui qui est ressuscité des morts et qui vit au siècle des siècles. Oh, frère, bien sûr, qu'est-ce que ça fait? Ça reflète quoi? Ça reflète d'ici. Qu'est-ce que c'est? Cela, quel est son vrai reflet? Ainsi, la première chose que ça refléterait serait son nom. Pas vrai? Ça refléterait son nom. La chose suivante qui serait reflétée serait sa puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça refléterait tout ce qu'il est. Si donc ceci se reflète sur cet âge-ci, tout ce qu'il était, alors il est le même. Gloire! Gloire! Qu'est-ce que c'est? Cela le reflète tel qu'il était, tel qu'il est, tel qu'il sera toujours. Parce que cela vient directement du trône de Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu, la même puissance, la même gloire, le même en toutes choses. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, frère, allons juste un peu plus loin. Bon, prenons la suite du verset 6, ici, du chapitre 4. J'ai noté quelques commentaires à ce sujet et je veux me dépêcher pour arriver à cela, si je le peux. Maintenant, prenons la suite. Après avoir terminé ce chapitre, après avoir terminé ce verset, c'est simplement le déroulement pour montrer ce qu'ils ont fait. Voyons si on peut voir ça. Verre, mer de verre. Maintenant, nous savons ce que c'était. Au milieu du trône, quatre êtres vivants, les bêtes. Bon, maintenant, combien ont une version révisée de la Bible? Dans la version révisée que vous avez, c'est écrit « être vivant ». Eh bien, je me demandais comment la version du roi Jacques que voici a pu dire « vivant » que c'était quatre bêtes. Eh bien, je me suis procuré un dictionnaire grec, et je suis retourné dans le dictionnaire de la Bible pour voir ce que cela signifiait. Bon, voici ce qu'il en est. Maintenant, soyez très attentifs. Le mot traduit ici, eh bien, prenez cela en note pour le vérifier. Vous aussi, pour être sûr. Vous voyez, je veux que vous notiez ce que je dis, et si vous le pouvez et le voulez. Très bien, la version révisée dit « être vivant ». Maintenant, regardez. Et il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Et ça continue en décrivant ces bêtes. Nous le verrons dans un instant. Maintenant, la bête ici est représentée. Avez-vous des notes inscrites en marge dans votre Bible au sujet du mot « bête » Si oui, lisez cette note qui est inscrite à la marge. Je remarque que le docteur Scofield a inscrit une note ici dans la sienne. Les bêtes signifient ce qu'il a mis ici, c'est « être vivant ». Oh là là! Maintenant, observez. Là, le mot grec, c'est « Z-2-O-M » ou « Z-2-O-N ». C'est « Z-2-O-N ». Donc, en grec, ça s'appelle « zoon », ce qui signifie « un être ». Maintenant, il n'en est pas ainsi. Si vous voulez le lire maintenant, nous n'avons pas le temps. Je m'apprêtais à le lire, mais je n'en ai pas le temps. Prenez en note Apocalypse 11, 13 et 17. Bon, là où le mot « bête » est utilisé, c'est dans Apocalypse chapitre 11, 13 et 17. Là, le mot « bête » est employé dans le même sens. Mais l'interprétation du mot « bête » qui est mentionné, c'est « T-H-E-R-I-O-N », « thérion ». Ce mot grec « thérion » est un mot qui signifie « bête sauvage et indomptée ». Thérion signifie « bête sauvage et indomptée ». Mais « zoon » signifie « un être ». Voyez, quatre zounes, êtres vivants, non pas les bêtes sauvages, thérions, mais zounes, des êtres vivants. Thérion, c'est donc ce qui est sauvage, indompté, féroce. Autrement dit, si vous regardez au chapitre 11, c'est Rome, la bête. Au chapitre 13, ce sont les États-Unis. Au chapitre 17, ce sont les États-Unis et Rome. Ce sont des églises dénominationnelles qui s'unissent au catholicisme, ce qui fait qu'elles sont non converties, indomptées par rapport à l'Évangile. Indompté. Dieu soit béni, nous venons de la grande église méthodiste, la dénomination baptiste, presbytérienne, pentecôtiste. Nous savons de quoi nous parlons. Personne ne nous conduit, ne nous dira quoi faire. Vous y êtes. Indompté, non converti, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de lire cela maintenant. Et j'aurais aimé mettre cette chose en pièces tout de suite, afin que ce soit sur cette bande, de toute façon. Mais nous n'avons pas le temps de le faire. Bon, vous comprenez. Combien comprennent? Dites Amen. Voyez, ce sont Zoon, Z-2-O-N. Qu'est-ce que c'est? Des êtres vivants. Ça se prononce peut-être Zon, Z-2-O-N. Comment le prononceriez-vous? Zoon? Je dirais Zoon. Et Thérion, c'est T-H-E-R-I-O-N, Thérion, voyez. Cela signifie donc que ce sont des bêtes indomptées, féroces, sauvages. C'est ce que ces bêtes, prenez votre, utilisez votre dictionnaire grec, cherchez, et voyez si ce n'est pas le même mot. Cherchez cela là-dedans, et vous verrez. Prenez votre livre de grec, prenez votre emphatique diglotte. Maintenant, voyez si ce n'est pas vrai, que ça, c'est vrai, que ça signifie une bête indomptée, dans Apocalypse 11, 13 et 17. Et ici, dans Apocalypse 4, cela signifie un être vivant, pas une bête. On l'appelait une bête, mais ce n'est pas le cas. C'est la même chose dans Ézéchiel 1, 8, 1 à 28 plutôt. Peut-être que nous le verrons dans un instant. Très bien. Une bête indomptée, non convertie, une bête sauvage, indomptée. Mais ceux-ci, ce sont des êtres vivants. Que sont-ils? Ce ne sont pas des anges. Je vais vous dire quelque chose. Lisons Apocalypse 5, juste sur l'autre page. Apocalypse 5, verset 11. « Je regardais et entendis la voix de beaucoup d'anges, anges au pluriel, autour du trône. » Est une conjonction. Est des êtres vivants et des vieillards. Voyez, est une conjonction. Voyez, ils n'étaient pas des anges ni des anciens. Ils étaient des êtres vivants autour du trône. Oh, n'aimez-vous pas ça? Des êtres vivants. Ce ne sont pas des anges, parce que ceci le prouve ici. Voyez, je regardais et entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards. Bon, là, il y a trois catégories différentes. J'espère que vous avez tous saisi ce système maintenant. Là, je veux vous montrer. Il y en a trois catégories différentes, trois espèces différentes. Regardez maintenant, autour du trône. Voici le trône. Maintenant, près de ce trône, ce qu'il y a en premier, ce sont les quatre êtres vivants. Après eux, il y a 24, comme ceci, anciens, assis sur des trônes, sur leur trône, de petits trônes en dessous. Et autour de ceci, il y a de grandes armées d'anges qui sont autour du trône. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tous différents les uns des autres. Là, il y a les anges. Ici, ce sont les anciens. Et ici, ce sont les êtres vivants. Ne perdons pas cela de vue un instant. Retenons cela un instant. Des êtres vivants. Que sont-ils si ce ne sont pas des anges ni des hommes rachetés? Que sont-ils? Aimeriez-vous le savoir? Voici mon interprétation. J'espère qu'elle est bonne. Je crois qu'elle l'est. Ils sont les gardes du trône de Dieu. Maintenant, nous allons effacer ceci dans quelques instants. Donc, voyez-vous, ce ne sont ni des anges ni des hommes. Ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce sont des êtres vivants. Donc, Voici le trône de Dieu, et ceux-ci sont ses gardes. Lisons un peu à ce sujet, et nous verrons ce qu'il en est dans quelques instants. Voyez, ce sont les anges de Dieu, ou plutôt les gardes du trône de Dieu. Et ils... Prenons juste un instant là. Reprenons Ézéchiel. J'ai noté des choses ici, et je n'aime pas les laisser de côté. Je sais que c'est un... Reprenons Ézéchiel, chapitre 1, et commençons au verset 12, jusqu'au verset 17, juste un instant. Chacun marchait droit devant soi. Maintenant, nous allons voir ça dans quelques instants. Et souvenez-vous maintenant de ce verset 7. Regardez à quoi il ressemblait, ici au verset 7, de ce même chapitre d'Apocalypse. Les quatre. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. Et les quatre êtres vivants étaient semblables à des aigles qui volent. Le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Donc, quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, il a vu la même chose que Jean a vu. Vous souvenez-vous de dimanche dernier, quand nous parlions de la gloire de Dieu et qu'il a permis que la photo de cela soit prise et que nous l'avons? Vous en souvenez-vous? La gloire de Dieu, la même chose qu'Ézéchiel a vue, la même chose que Jean a vue, la voilà aujourd'hui. Cela fait que Jésus-Christ était le même du temps d'Ézéchiel, exactement comme quand il était ici sur la terre. C'est le même Dieu qui est ici avec nous aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui était, qui est et qui vient. La porte d'accès de l'âme, du corps et de l'esprit, la mère d'airain, la parole, c'est elle qui sanctifie notre âme et c'est elle qui remplit du Saint-Esprit. C'est la même chose, voyez, c'est exactement la même chose. Maintenant, regardez ceci, très bien. Et l'esprit, peu importe où ils allaient, maintenant, allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Ils ne pouvaient pas se tourner. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils allaient en tant qu'homme. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils allaient en tant qu'aigle. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils allaient en tant que bœuf. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils allaient en tant que lion. Ils ne pouvaient pas reculer. Ils allaient forcément droit devant eux, dans toutes les directions qu'ils prenaient, chacun de ces animaux. Or, que signifie un animal dans la Bible? C'est une puissance. Très bien, ça signifie une puissance. Maintenant, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait de la lumière. Ça, c'est Dieu. Du feu sortait la lumière, pas la lumière cosmique, bien entendu, la lumière éternelle. Et les animaux couraient et venaient, voyons voir, les animaux couraient et revenaient, et comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect, à leur structure, ces roues semblaient être chrysolites, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Quel est le symbole ici, frère Branham? Qu'est-ce que c'est? Cela signifie que ces gardes, c'était l'arche de Dieu. Ils étaient en marche et se déplaçaient sur des roues quand Ézéchiel les a vus. Mais quand Jean les a vus, ils étaient déjà dans leur position correcte au ciel. L'arche de Dieu était sur la terre et elle se déplaçait sur des roues comme on l'amenait de lieu en lieu. Cela signifiait qu'elle voyageait. Elle était transportée pendant tout le trajet dans le désert et sur tout le trajet qui menait au temple et tout. Mais maintenant, elle est élevée, puisque l'âge de l'Église est terminé et elle était élevée dans la gloire. Voyez, elle est maintenant immobile au ciel, entourée de tous les anges et de toutes les autres choses. Un peu plus tard, nous les voyons ôter leur couronne, se prosterner face contre terre et lui rendre gloire. Voyez, c'étaient les gardes du temple de Dieu, de l'arche. Maintenant, souvenez-vous, les gardes de l'arche de Dieu. ou du propitiatoire. Maintenant, souvenez-vous, ils étaient combien? Jean en a vu combien? 4. Combien en a-t-il vu? Il en a vu 4, lui aussi. 4 êtres vivants. Donc, voyez-vous, tous les deux ont eu la même vision. Et 4, c'est le nombre de la Terre. Le saviez-vous? Avant que nous abordions cela, combien ici savent que 4 est un nombre terrestre? Certainement, comme les 4 Hébreux, c'est un terre, c'est un nombre terrestre, le nombre de la délivrance, la délivrance. Maintenant, gardez cela à l'esprit, la délivrance, parce que je vais sérieusement traiter de cela dans un instant. Vous voyez, la délivrance. Eh bien, il y avait 3 enfants hébreux dans la fournaise ardente, mais quand le 4e homme est arrivé, la délivrance s'est produite. Lazare avait passé 3 jours dans la tombe, mais au 4e jour, il était délivré. 4, c'est le nombre de Dieu de la délivrance, ce qui montre que ces êtres devaient avoir quelque chose à voir avec la terre. J'espère que vous n'avez pas trop faim là. J'espère que votre appétit spirituel est un peu plus grand que votre appétit naturel là. Voyez? Très bien. Maintenant, remarquez, ils ont des yeux, ici dans Ézéchiel, devant, derrière et au-dedans. Lisons simplement cela. Regardez ici, voyez? Vous voyez ici, je crois qu'ici, on en parle, des êtres vivants. Ils ont 4 faces, notamment un aigle, des ailes, et ils sont remplis d'yeux dehors et dedans. Regardez ici, les 4 êtres vivants, et chacun avait 6 ailes. Ils volaient et tout. Ils avaient des yeux dehors, au-dedans et derrière. Cela indiquait leur intelligence. Ils savaient ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Car ils se trouvaient tout près du trône. Ils en étaient si près qu'ils n'étaient même pas humains. Les gardes du temple, ou plutôt, non pas les gardes du temple, les gardes du temple sont les 144 000. Mais ceux-ci sont les gardes du propitiatoire, les gardes du trône. Du trône, ils sont tout juste à côté de Dieu, des êtres vivants, ceux qui sont juste à côté de Dieu, qui se tiennent là. Leur intelligence, ils savent ce qui était, ce qui est, ce qui vient. Ils avaient des yeux à l'extérieur, ce qui indique qu'ils pouvaient voir les choses à venir. Des yeux au-dedans, ce qui indique qu'ils savent tout ce qui est maintenant. Et des yeux derrière, ce qui indique qu'ils savaient ce qui était. Qui était, qui est, qui vient, reflétant tout au long des âges de l'Église, celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gardez cela à l'esprit maintenant. Nous allons bien enfoncer le clou en dessinant cela au tableau dans quelques instants. Regardez bien. Bon, attendez un instant. Cela révèle leur intelligence et cela montrait qu'ils connaissaient, qu'ils connaissent. Ils connaissaient tout du futur, du présent et du passé. Absolument tout. Et leur, ils étaient infatigables. Ils ne se fatiguaient jamais. Ils n'avaient rien à voir avec l'homme, puisque lui, il se fatigue. Mais ils étaient infatigables. Ils chantaient « Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, Saint, 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 toute la journée et toute la nuit, pendant tous les âges. Saint !» Revenons un peu en arrière, juste un instant. Revenons en arrière. J'ai une écriture à l'esprit. Ésaïe 6, rapidement. Observez, Ésaïe a vu exactement la même chose. Toutes les visions au sujet du Seigneur, c'est ce que je dis, c'est les visions que nous avons aujourd'hui, ne correspondent pas exactement aux visions bibliques. Alors, elles sont fausses. Si elles reflètent, ou toute révélation qui fait de Dieu autre chose que ce qu'il a toujours été, c'est une fausse révélation. L'Église en entier est bâtie là-dessus. Matthieu 17. Voyons Ésaïe, le chapitre 6. Ce jeune prophète s'appuyait sur le bras de ce bon roi, qui lui avait acheté toutes sortes de beaux vêtements. C'était un prophète, et il s'entendait très bien au point. Mais un jour, le roi est mort, et il lui fallait se débrouiller tout seul. Alors, il est allé au temple pour prier. En effet, il a commencé à se retirer du palais royal, là-bas, afin de pouvoir. Le bon vieux roi était un homme bon et saint, mais il est sorti et a vu comment les gens vivaient. Il est donc allé dans le temple. Maintenant, écoutez. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Gloire! Les pans de sa robe! Qu'est-ce que c'est? Les voici, les anges, les êtres. Voilà les pans de sa robe. Ceux qui l'accompagnaient, un pan de robe, c'est ce qui suit derrière. Voyez, les pans de sa robe remplissaient le temple, et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun d'eux 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de gloire. » Quand les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Oh là là, là là, cela montre que les visions qu'ont eues chacun de ces hommes étaient exactement les mêmes. Saint, 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 ils sont infatigables, jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Faisons un saut en arrière un instant pour nous assurer que nous avons bien compris ces gens. La première fois qu'on parle de ces gardes, c'est dans la Genèse. Et souvenez-vous, tout ce que nous prêchons, on doit pouvoir trouver cela de la Genèse à l'Apocalypse. Si, à un moment donné, vous avez des questions, venez me les poser. Voyez, il faut que ça se trouve dans toute la Bible, pas seulement dans une partie, parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il était dans la Genèse, il l'est aujourd'hui, et il l'était dans le Moyen-Âge. Il est toujours le même. Voyez, maintenant, dans la Genèse, quand ces chérubins, c'est ainsi que j'ai pu les retrouver. Il a fallu que je revienne en arrière pour voir ce qu'ils étaient au commencement. Prenons Genèse 3, 24. Juste un instant, là. Genèse, chapitre 3, verset 24. Vous aimez cela? Très bien. Bon, commençons vers le verset 22. J'aime vraiment ça. C'est quelque chose que je veux ajouter ici, juste un petit ajout, mais ça pourrait faire beaucoup de bien un jour. L'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu l'un de nous. » Maintenant, mes chères et précieuses sœurs bien-aimées, permettez-moi de le dire ainsi. Ne pensez pas que je jette un discrédit sur la loyauté de la femme, sur ce beau et précieux joyau qu'elle est. Ici, j'essaie de montrer ce qu'une femme, s'il vous plaît, vous qui écoutez la bande, vous les femmes qui écouterez cette bande, je n'essaie pas de vous mépriser. Je ne suis qu'un serviteur du Seigneur qui apporte la lumière. La chose la plus vile, la plus immorale et la plus souillée de la terre, c'est une femme, lorsqu'elle est mauvaise, est le joyau le plus précieux d'un homme. Après son salut, c'est une femme bonne. Et c'est de cette femme vile, immorale, dégradée que je parle. Je vais vous le montrer ici même, alors que nous y sommes. Autant vous montrer pourquoi la Bible enseigne aux femmes de ne pas être des prédicateurs, des pasteurs, des docteurs ou quoi que ce soit d'autre dans l'Église. Maintenant, écoutez bien ceci. L'Éternel dit, « Voici, l'homme est devenu l'un de nous. » Eh bien, il n'a jamais dit que la femme l'était devenue. L'homme est devenu l'un. Et il a la connaissance du bien et du mal. La femme ne l'avait pas. Elle avait été séduite. Le voyez-vous? Ainsi, Paul a dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. » Mais, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui était séduit, c'est la femme qui était séduite. Elle n'est donc pas devenue l'un d'eux, comme Dieu. Elle ne savait pas faire la distinction. Elle avait été séduite. Est-ce que vous saisissez? Si oui, dites « Amen » pour que je... L'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Et connaît, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. qui ont une épée volante, qui agitent une épée flamboyante. Voyez-vous, ces quatre animaux, il n'y a que quatre directions possibles, voyez-vous. L'est, le nord, l'ouest et le sud. Ces chérubins avaient une épée flamboyante à la porte du jardin pour garder le chemin de l'arbre de vie. Car si l'homme avait réussi à s'emparer de l'arbre de vie, alors il aurait pu vivre éternellement. Et la première fois qu'il est question de ces chérubins, ils sont placés à la porte est du jardin. Et ils se déplacent dans quatre directions. J'aurais dû dessiner cela un peu différemment. Je ne peux les représenter exactement comme Dieu l'a ordonné et tout. Mais je veux juste... C'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Voici le jardin d'Éden. Et ceci, juste ici, c'est la porte. Elle s'ouvre ici, vers l'extérieur. Et à cette porte, il y avait des chérubins. Des chérubins. Et souvenez-vous, ça ne dit pas un chérubin, ça dit des chérubins. Des chérubins avaient été mis là pour garder quelque chose? L'arbre de vie. C'est cela qu'ils étaient censés garder, le chemin de l'arbre de vie. Le chemin. Qui est ce chemin? D'où cela tire-t-il son reflet? Ici, c'est le lieu saint. Ici, ce sont les chérubins. Maintenant, regardez bien. Prenez tout ceci en note. Ici, c'est le saint, ce saint des saints, saint des saints. Ceci, c'est le lieu saint. Ici, c'est la mer. Et ici, ce sont les lampes qui portent la lumière. Les sept qui reflètent la lumière d'ici à ici, à ici, à ici, à ici, à ici, à ici. Voyez, qu'est-ce qu'ils reflètent? Ils gardent le chemin vers l'arbre de vie et reflètent le feu de Dieu. Voyez, ça ne peut pas venir d'ici, un séminaire presbytérien ou un séminaire pentecôtiste. Ça doit venir d'ici, ça doit refléter la lumière. Très bien. Si vous regardez bien, ces chérubins que Jean a vus ici devaient avoir de l'intérêt pour la garde de l'arbre de vie. Donc, ils devaient avoir de l'intérêt pour les êtres humains. Ou, lisez la Genèse. Reprenons la Genèse. Ils gardaient l'arbre de vie. Ils le gardaient, le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Comment est le chemin? Jésus a dit, « Je suis ce chemin. Je suis ce pain qui vient du ciel, d'auprès de Dieu. Si un homme mange de ce pain, il vivra éternellement. » Donc, il y a un chemin qui ramène à cet arbre de vie. Vous saisissez? Maintenant, là, je veux le montrer de sorte qu'il soit clair, qu'il s'agit d'un autel. Donc, dans le jardin d'Éden, ceci devait être un autel. Je vais vous dire pourquoi. Vous souvenez-vous que Cain et Abel étaient venus ici pour adorer? Cela montre donc que l'autel de Dieu avait été déplacé pour être placé ici, au jardin d'Éden. Et la seule façon de retourner en Éden, c'est de passer par l'autel. Vous y êtes une fois de plus, voyez, de retour en Éden par l'autel. Et il devait en garder le chemin, le protéger, afin qu'il ne puisse pas y retourner tant que cet autel n'était pas couvert de sang. Oh Dieu, les gens ne peuvent-ils pas le voir? Vous voyez, rien d'autre que le sang. Là, il faut qu'il y ait une expiation, un propitiatoire. Cet autel de jugement doit devenir un propitiatoire. Et quand cet autel, si le sang est enlevé, le feu de la colère de Dieu sera là, au jour du jugement, pour garder cet arbre de nouveau. Le seul moyen d'entrer de nouveau, par cette porte de l'Éden, ce sera par le sang de Jésus-Christ. Le voyez-vous? Maintenant, remarquez. Oui, maintenant, Cain. Oh, voici Cain. Et voici Abel. Abel. Très bien. Là, les deux garçons sont venus à cette porte pour adorer. Pas vrai? Donc, ça devait être l'autel de Dieu. Pas vrai? Et devant cet autel, ils ont construit un substitut, un autre autel. Voici le véritable autel de Dieu. Il se trouve dans le cœur de l'homme. Et ici en bas, il y avait un autre autel qui représentait le Saint des Saints dans le lieu saint. Oh, j'ai envie de parler en langue. Oh là là, la gloire de. Ne voyez-vous pas que cela est parfait? Regardez bien. Oh, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que je ne trouve pas assez de mots dans mon propre dialecte anglais pour exprimer ce que je ressens. Voyez, quelque chose doit l'exprimer. Comme frère Rowe, un diplomate qui est au service du président, environ 4 ou 5 présidents différents. Il a dit, « Oh, frère Branham, un soir je suis venu à la réunion. » Il a dit, « Je ne savais pas quoi faire, a-t-il dit, j'étais là. » Et il a dit, « Oh, a-t-il dit, j'ai aimé le Seigneur toute ma vie. » Il a dit, « J'ai été un, je pense, épiscopalien. » Il a dit, « Et je pensais connaître le Seigneur. » Il a dit, « Et un soir, j'ai regardé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire. » Il a dit, « Je ne l'aurais fait pour rien au monde. » Mais, a-t-il dit, « J'ai entendu la parole être proclamée. » Oh, cela a commencé à se mouvoir. Il a dit, « Je me suis mis à marcher de long large, à l'extérieur de la tente. Je faisais des va-et-vient. » A-t-il dit, « Soudain, je ne pouvais plus attendre d'arriver à la porte. Je suis entré en rampant en dessous quand l'appel à l'hôtel était fait. J'ai couru à l'hôtel et je me suis jeté à genoux. J'ai dit, « Seigneur, je suis un pécheur. » Et il a dit, « Là, il m'a rempli de son Saint-Esprit. » Et il a dit, « Je parle 8 langues différentes. » Parce qu'il est un diplomate, voyez, il est un diplomate au service du président, et depuis Woodrow Wilson jusqu'à présent, c'est un diplomate au service de chacun de nos présidents, un diplomate à l'étranger. Il peut parler n'importe quelle langue étrangère. Il a dit, je connais pratiquement toutes les langues écrites connues du monde. Mais il a dit, j'étais si rempli de gloire que je ne pouvais utiliser aucune d'elles pour le louer. Alors, le Seigneur m'en a donné une nouvelle qui vient du ciel pour que je puisse le louer. Oh, oh, voilà, il gardait cette porte. Caïn et Abel sont venus ici pour adorer. Ce devait donc être un autel qu'il gardait. Pas vrai, ces chérubins? De plus, voyez, voici une autre preuve. Caïn, observez la Bible maintenant. J'aimerais que vous le preniez, mais ça, laissez tomber. Vous l'avez dans la Genèse. Très bien, observez, Caïn est sorti. Caïn est sorti de la présence du Seigneur par la porte du jardin. Ainsi donc, la présence du Seigneur était forcément à l'autel. Et l'autel se trouvait à la porte. Gloire! Oh! Très bien. C'est là que Dieu demeure, à son autel. Donc, c'est d'ici que Caïn est sorti de la présence du Seigneur. Voulez-vous noter cela? Genèse 4, 16, si vous voulez le noter. Bon, maintenant, vous avez tout noté, n'est-ce pas? L'avez-vous écrit? Bon, j'ai quelque chose d'autre que je veux dessiner ici juste un instant. J'espère simplement que vos haricots ne brûleront pas, ou quoi que ce soit d'autre à votre. Maintenant, remarquez, laissez-les brûler, ce n'est pas grave, ils périront de toute façon. Pensons à ceci, c'est la chose qui est véritable. Moïse avait été ravi au ciel. Moïse, ravi de la terre jusqu'au ciel. Et là, il avait vu l'autel de Dieu. Pas vrai? Là, j'essaie de prouver ce que j'avance. Vous savez ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas? Très bien. Il était monté dans la présence de Dieu. Et quand il est descendu de la présence de Dieu, il a dit, Dieu a dit à Moïse, « Fais tout sur la terre d'après le modèle que tu as vu au ciel. » Pas vrai? Très bien. Alors là, quand il a fait l'arche de l'Alliance, il a mis 2 chérubins pour garder l'arche. Vous voyez ce que c'est? C'était le temple, c'était l'autel, les gardes du trône. Au sujet de ces 2 chérubins, il avait dit, « Fais-les d'airain et fais que leurs ailes se touchent comme ceci, puisque c'est exactement ce qu'il avait vu au ciel. » C'est exactement ce que Jean a vu au ciel. Ces 4 chérubins qui se tenaient aux 4 côtés de l'arche, du trône au ciel. Ils étaient les gardes de l'arche, des chérubins, des gardes du propitiatoire. Si vous voulez lire ce passage de l'Écriture, nous n'avons pas le temps de le prendre, notez Exode 25, 10 à 22. Maintenant, ils gardent le propitiatoire quand Dieu est dans sa gloire de la Shekinah. Où était la gloire de la Shekinah? Au propitiatoire. Pas vrai? Ils gardent cette gloire de la Shekinah. Écoutez, mes amis. Alors ça montre qu'aucun chenapan ne peut y entrer pour avoir part à cela. Vous devez être préparé avant d'entrer dans la présence de cela. Regardez Aaron, qui était un type. Avant, bon, souvenez-vous, en ce temps-là, l'assemblée ne pouvait même pas s'en approcher, en aucun cas. Mais quand Aaron entrait, combien de fois devait-il y entrer? Une fois par an. Comment devait-il? Il devait porter certains vêtements, fabriqués par certaines mains, un type de vêtements bien précis. Il devait être habillé d'une certaine manière. Il avait une grenade et une clochette qui, chaque fois qu'il marchait, faisait une musique. Saint, saint, saint est le Seigneur. Il s'approchait du propitiatoire avec le sang et il fallait qu'il soit oint d'une certaine huile, parfumé d'un certain parfum, fait à partir de la rose de Saron. Jésus était cette rose de Saron. Et remarquez, une rose, c'est quelque chose de beau. Elle contient du parfum. Mais pour en extraire le parfum, il faut écraser la rose. Et alors le parfum est tiré de la rose. Jésus, sa vie, était la plus belle vie jamais vécue. Mais il ne pouvait pas rester ainsi, parce qu'il fallait qu'il oigne son Église, afin qu'il puisse approcher sa sainteté. Alors, sa vie a été écrasée. Et le même Saint-Esprit qui était sur lui a été mis sur l'Église. Il fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. La rose de Saron, qui en est le parfum. La personne qui s'approche de ce Saint des Saints doit être ointe du même Saint-Esprit. Et alors qu'il marche, saint, saint, saint est l'heure. Pas avec un cigare à la bouche. Saint, pas avec le col tourné vers l'arrière. Saint, 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 revêtu de la sainteté de Jésus-Christ. Comme tu es merveilleux. Oh, maintenant, le propitiatoire. Donc, le propitiatoire se trouve dans le cœur. C'est de là que resplendit sa gloire dans tous ses enfants, la gloire de la Shekinah dans le cœur humain. Ici, c'est le cœur humain, pas vrai? Est-ce là le propitiatoire? Comment y entre-t-on? Par tous ces différents systèmes? Par le libre arbitre. Le libre arbitre. On entre ici et passe par là. Puis, il en ressort quoi? La gloire de la Shekinah. Qu'est-ce que la gloire de la Shekinah? C'est la présence de Dieu. Et quand un homme ou une femme marche, il reflète la gloire de la Shekinah. Il ne va pas dans des salles de jeu et ne se conduit pas n'importe comment. Et il ne s'en va pas renier la parole. Peu importe ce que les gens disent, il a le cœur centré sur une seule chose, Dieu. Et s'il est vraiment appelé de Dieu, alors Jésus-Christ se reflète à travers lui dans la gloire de la Shekinah. Accomplissant les mêmes choses qu'il a faites dans le passé, il manifeste le même évangile, prêche la même parole. La même parole se manifestant dans la même mesure qu'autrefois, exactement comme il en était à la Pentecôte, de nouveau dans la même mesure. Oh là là! Le propitiatoire, Ézéchiel et Jean ont tous deux vu les mêmes choses. Maintenant, remarquez, nous allons bientôt terminer, dans très peu de temps. Maintenant, voici quelque chose que je veux que vous saisissiez. Oh, s'il vous plaît, ne le manquez pas. Eh bien, combien savent que ces chérubins étaient des êtres vivants et non des bêtes? Ils étaient un ordre supérieur. Maintenant, est-ce qu'un ange est d'un ordre supérieur à un homme ou d'un ordre inférieur? Très bien, monsieur. Lequel est le plus grand, un fils de Dieu ou un ange? Un fils de Dieu. Lequel Dieu écouterait-il le plus? Un ange debout devant lui qu'il implore pour quelque chose ou l'un de vous qu'il implore? L'un de vous, vous voyez, parce que vous êtes des fils et des filles. Eux, ils sont des serviteurs. Vous voyez, ce sont des serviteurs et vous êtes des fils et des filles. Vous pouvez donc voir quelle autorité vous avez. Nous avons simplement peur de l'utiliser. Maintenant, je veux que vous remarquiez ici, c'est magnifique. Oh là là, je vais continuer ici et laisser un peu de ces choses de côté afin d'arriver à ceci. Prenez vos crayons maintenant. Voici ce que je voulais vraiment que vous dessiniez. Peut-être que je ferais mieux de le dessiner un peu plus petit. Bon, Israël, quand il faisait route, il campait. Maintenant, soyez très attentifs. Il compait. 1, 2, 3, 4. Non, je crois que je me trompe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ainsi qu'il compait autour du propitiatoire. Eh bien, je sais que vous le savez tous. Vous l'avez vu et lu dans l'Ancien Testament. Maintenant, du côté est, juste ici, je vais l'écrire pour être sûr que vous l'avez saisi. Est, le côté est, c'était toujours Judas. Voici la porte, J-U-D-A, Judas. Et avec Judas, c'était le chef de 3 tribus, et ils avaient leur bannière. 3 tribus qui avaient une bannière, la bannière de Judas. Souvenez-vous, les 10 commandements, combien ont vu ça? Les 10 commandements de Cécile de Mille. Très bien. Ou lisez-le ici même dans l'Écriture, ou plutôt là dans l'Écriture. Judas était du côté est. Très bien. Du côté ouest, ici en bas, eh bien, prenez cela en note et lisez cela. C'est dans l'Exode et ailleurs qu'on les voit sortir. Il y avait Éphraïm. E-P-H. Il était constitué de 3 tribus et ils avaient leur bannière. Très bien. Éphraïm. Puis, du côté sud, il y avait Ruben, R-U-B, constitué de 3 tribus, et ils avaient leur bannière. Et du côté nord, il y avait Dan. Dan était constitué de 3 tribus, 3 tribus, et ils avaient leur bannière. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'ils campaient. Bon, souvenez-vous, lisons maintenant dans l'Écriture pour saisir ceci exactement comme il faut. Je vais commencer au verset 7. Le « être vivant » ressemble à un lion. Le second ressemble à un veau ou un jeune bœuf. Le troisième être vivant a la face comme celle d'un homme. Et le quatre être vivant est le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants, chacun a 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui viendra. » Quand ces êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et ont été créées. » Bon, maintenant regardez. Du côté est, il a vu quel genre de face? Si vous remarquez, c'était un lion, L-I-O-N. Ça, c'était la bannière. C'était la bannière, l'étendard de Judas. Parce qu'il est, Jésus est sorti de, c'est vrai, il est le lion de la tribu de Judas. Maintenant, combien ont déjà vu le zodiaque? Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. L'étoile, vous voyez, c'était la première Bible de Dieu. Eh bien, ça commence par quoi? Le premier nombre du zodiaque. Le premier signe, c'est la Vierge. Pas vrai? Et quel en est le dernier? Léo, le lion. La première venue et la seconde venue du Christ. Tout cela s'y trouve. On y retrouve le cancer croisé ou l'âge croisé, exactement là où on voit des poissons croisés, c'est-à-dire l'âge du cancer. Et c'est précisément dans cet âge que nous vivons. Et remarquez que la pyramide, quand elle a été bâtie, du temps d'Enoch, toutes les pierres s'y trouvaient. Ils pouvaient mesurer ces choses avec précision et prédire les guerres et tout. Tout est achevé à l'exception de la pierre principale. Pourquoi? Avez-vous remarqué sur votre billet $1? Sortez-le et regardez. Le fait n'y est pas. Pourquoi? La pyramide n'a jamais été coiffée. Christ est la pierre principale qui a été rejetée. Il était la pierre principale qui a été rejetée. Il revient très bientôt. Observez comment cette église, là-bas, à l'âge de Luther, était très large à la base. Puis, elle est devenue minoritaire, un peu plus minoritaire, et encore un peu plus, jusqu'à ce qu'elle descende. Après, elle quitte l'âge pentecôtiste et descend sur chaque pierre et s'ajuste parfaitement pour que le fait s'y pose. Une église qui produira Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est absolument parfait. Bon, il était le lion de la tribu de Juda. Maintenant, quiconque a déjà lu la Bible sait quel était le nombre de Dan, ou celui de Dan, le sien, c'était un aigle. C'est vrai, il était un aigle. Quelqu'un a lu la Bible. Il était un aigle. Bon, celui de Ruben, c'était l'homme. Il était le premier, le plus faible du groupe. Jacob, ne l'a-t-il pas dit dans Genèse 49? Ruben, toi, les prémices de ma vigueur, comme les eaux, tu es monté sur ma couche et tu as souillé ma couche. Il avait vécu avec la concubine de son père. Vous voyez, c'est l'immoralité de l'être humain. Vous voyez, les animaux n'ont pas cette immoralité. Le lion ou aucun autre animal n'a cela. Mais l'homme, oui, il va avec la femme de son prochain et tout. Tout comme, c'est exactement la même chose. Tout est achevé. Maintenant, ici en bas, c'est Dan qui était un aigle. Et ici, c'est Ruben qui était la face d'homme. Éphraïm, c'est lui qui est le bœuf. Maintenant, vous voyez le tableau? Éphraïm, c'est ainsi qu'il compait dans la Bible. Maintenant, si vous remarquez, Dan est à la tête de trois tribus, Juda est à la tête de trois tribus, Ruben est à la tête de trois tribus, et Éphraïm est à la tête de trois tribus. 3 × 4 font 12, les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, chacune avait sa bannière. La bannière de Juda était un lion, la bannière de Ruben, un homme, la bannière d'Éphraïm, un bœuf, la bannière de Dan était un aigle. Maintenant, regardez ici ce que Jean a dit. Et l'un avait la face. Lisons ici maintenant et voyons si ce n'est pas la même chose qu'au ciel. Le premier être vivant est semblable à un lion, Juda. Le second être vivant était semblable à un veau, c'est-à-dire un jeune bœuf. Le troisième être vivant était la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est un aigle qui vole. Exactement comme les tribus d'Israël qui campaient tout autour pour monter la garde. Ce sont des gardes terrestres de l'accès à l'arche. Oh, alléluia! Ne le voyez-vous pas? Ici, propitiatoire. P-R-O-P-I-T-I-A-T-O-I-R-E. Le propitiatoire. Rien ne pouvait s'en approcher sans passer par ces tribus. Passer par quoi? Le lion. Passer par l'homme, l'intelligence de l'homme. Passer par la bête de somme, qu'est le bœuf. Ou passer par l'aigle, sa rapidité. Voyez? Le ciel, la terre, l'entre-deux, et tout autour. Vous voyez, ils étaient des gardes. Et au-dessus, il y avait la colonne de feu. Frère, rien ne pouvait toucher ce propitiatoire sans s'approcher de... Et le seul moyen de s'en approcher, c'était par le sang. Aaron y entrait une fois par an avec le sang. Le voyez-vous maintenant? Bon, regardez. Chaque chef de trois tribus gardait le propitiatoire de l'Ancien Testament. Maintenant, l'avez-vous noté, tout le monde? Bon, en voilà une toute nouvelle, frère. Écoutez ça et on termine. Maintenant, souvenez-vous, c'était là les gardes de l'Ancien Testament. Combien l'ont déjà lu dans la Bible et savent que c'est vrai? Voyez, ce sont les gardes de l'Ancien Testament. Maintenant, nous vivons dans un autre âge. Gloire! Oh, j'aime cet âge! Pas vous? Maintenant, Dieu a aujourd'hui un propitiatoire qui doit être gardé. Croyez-vous cela? Où se trouve le propitiatoire? Dans le cœur de l'homme. Quand est-il venu dans le cœur de l'homme? Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit, qui est Dieu, est entré dans le cœur humain. Pas vrai? Maintenant, écrivons cela ici et préparez-vous à le dessiner si vous voulez. Pentecôte, P-E-N-T. Je vais écrire Pentecôte. Ceci, c'est le propitiatoire, le Saint-Esprit. Mettons ici, je vais vous dire, pour que ce soit plus approprié, mettons ici la colombe, ce qui signifie l'oiseau, voyez? Très bien, il gardait le propitiatoire. Bon, Dieu a-t-il des gardes du propitiatoire aujourd'hui? Maintenant que, là, regardez comme c'est bien présenté. J'étais assis l'autre jour et quand j'ai vu ceci, j'ai sauté de ma chaise et j'ai couru tout autour de ma chaise, encore et encore, en disant « Gloire, 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 encore et encore ». Charlie, des fois, je me comporte pire que dans les bois. Sœur Nelly, si j'agissais comme ça, vous me chasseriez rapidement de votre maison. Hein? Oh, je passais des moments glorieux. Maintenant, regardez ce que c'était, ce que le Seigneur a fait. Maintenant, la Pentecôte. Après la Pentecôte, on a écrit un livre de quoi? Des Actes du Saint-Esprit. D-A-C-T-E-S. Pas vrai? Par quoi commencent les actes? La première chose qui donne accès au salut. Acte 2, 38. Voici le dernier, juste ici. Pas vrai? Ils avaient tous été remplis du Saint-Esprit et s'étaient mis à parler en d'autres langues. Pierre s'est levé et leur a prêché un sermon. Ils ont dit, « Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous accéder à cela ?» Il a dit, dans Acte 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Maintenant, souvenez-vous, Dieu a des gardes pour ce propitiatoire. Quel est ce propitiatoire qu'il garde? Très bien. M-A-T-H. Matthieu. À l'est. Luc. Luc. Marc. Et Jean. Tous leurs quatre évangiles confirment le livre des actes à venir. Ils le gardent. Peu importe l'angle duquel vous regardez cela. Prenons-en juste un seul. Nous n'avons pas le temps. J'ai une vingtaine de notes ici. Mais prenons-en juste un au sujet du salut. Aurons-nous le temps de prier? Non, il est 13h. Donc, je suppose que nous n'en aurons pas le temps. À moins que vous vouliez tous prier pour les malades. Bon, j'ai beaucoup de temps. Voyez, très bien. Maintenant, remarquez ceci. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qu'est-ce que c'est? Le nombre terrestre des évangiles. 4. Très bien. Remarquez. Bon, Matthieu 28, 19. 28. Maintenant, c'est sur cela que vous, les frères trinitaires, vous vous appuyez. 28, 19. Très bien. Matthieu, dans la dernière partie du chapitre, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » Mais voici que vient la Pentecôte. Et Pierre dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. » Quelque chose cloche là. Matthieu, es-tu le garde de la porte est? Comment est la porte? La porte, c'est quoi? Jésus. Jésus a dit, étroite est la porte. Pas vrai? Est-ce que ça s'appelle? Comment cela s'appelle-t-il? S-T-R-A-I-T. Il s'agit du mot anglais straight, qui signifie détroit, et dont l'homonyme straight signifie étroit. Détroit, ou S-T-R-A-I-G-H-T. Étroit. D-E. T-R-O-I-T signifie « eau ». L'eau est la porte. Comment y entre-t-on? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Cela déverrouille les portes. Oh, oh, mais frère Branham, il y a aussi Matthieu 28-19. C'est tout à fait vrai. Mais Matthieu, en es-tu l'un des gardes? Bien sûr, j'en suis un garde à part entière. Maintenant, prenez Matthieu 1, 18 et voyez ce qu'il y est dit. Voyez si cela garde ceci. Voyez si Matthieu 1, 18 garde Matthieu 1, 28 et Acte 2, 38. Voyez s'il les garde. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, comme ils essayent de dire. Quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est lequel des deux? Cela montre que ces deux sont un. Et cela, tout arriva afin que... Et voici, or, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre de cette manière avec elle. Voici, un ange du Seigneur est descendu, est venu sur lui, vous savez, et a dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Voyez? elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Tout arriva afin que s'accomplît par le prophète. C'est-à-dire, une vierge concevra, Ésaïe 9:6, une vierge concevra, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom. Est-ce qu'il en assure la garde? Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que des titres qui se rapportent à ce seul nom. Donc, ce garde se tient juste là pour défendre cela. Vous saisissez? Oh là là! Maintenant, combien savent cela? Le voici! Il est un garde! Maintenant, prenons... J'ai tout un tas d'autres passages qui traitent du salut. Prenons ces autres passages. Mais maintenant, s'il nous faut avoir une ligne de prière dans quelques instants, pendant une dizaine de minutes, essayons d'aborder quelque chose d'autre ici. Juste un instant. Prenons quelques autres passages des Écritures maintenant. Où ai-je noté ça? Les voici. Très bien. Maintenant, prenons Matthieu ici et voyons s'il en assurera la garde par rapport à la guérison divine. Avez-vous pris vos crayons et tout pour noter cela? Très bien. Voyons si Matthieu divise, on assurera la garde. Prenons Matthieu 10, 1. Prenons et voyons si Jean, juste un ou deux, prenons-en deux, ou un ou deux de ceux-ci, ce qu'il signifie. Jean 14, 12 et 15, 7. Voyons s'ils assurent la garde de la guérison divine près du trône de Dieu. Marc 16, Marc 11, 21 et 22. Luc 10, 1 à 12. Et Luc 11, 29 à 31. Parcourons-en quelques-uns et voyons s'ils en assurent la garde. Voyons s'ils gardent l'accès à la guérison divine comme ils gardent la porte d'accès au baptême au nom de Jésus. Nous pouvons examiner chacun d'eux. C'est vrai. Maintenant, reprenons donc Matthieu 10, 1. Revenons donc en arrière pour pouvoir, puis nous aurons terminé d'environ 5 ou 10 minutes, tout au plus, si le Seigneur le veut. Très bien. Prenons Matthieu 10. Voyons si Matthieu garde les actes des apôtres. Pensiez-vous que Dieu n'avait pas mis une garde autour de sa parole? Voyez si le bœuf, le lion, l'homme, l'aigle ne sont plus à ses portes ici sur la terre en ce moment même. Voici les évangiles, les quatre évangiles. Voyez, et si vous remarquez, peu importe la direction qu'ils prenaient, ils allaient droit devant eux. Ils ne se contredisent pas, ils demeurent ensemble. Voyez, l'un présente les choses avec l'habileté de l'homme, l'autre avec la rapidité de l'aigle. L'autre est un pasteur, l'un est un évangéliste. Il vole comme un évangéliste. Voyez, l'autre est un pasteur, l'autre est solide, l'autre est habile. Voyez, c'est gardé de tous les côtés. C'est Dieu qui garde cet évangile du Saint-Esprit. Croyez-le, frère. Très bien. Bon. Prenons Matthieu 10, 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Oh, calmez le bébé, juste une minute. Écoutez, écoutez attentivement. Et elle leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Beaucoup de pasteurs laissent les esprits impurs demeurer dans leur église. L'habillement des femmes, les pièces de théâtre, les parties de cartes, les jeux de loto, les soirées dansantes, les soupers où on sert de la soupe, tout. Oh, miséricorde! Chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voyez-vous ce garde qui se tient à la porte? La garde de l'Évangile qui confirme ce livre des actes qui a été écrit. Or, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un grand enseignant dire, un grand homme, un homme bien, je l'ai rencontré, je lui ai serré la main, un brave frère. Il a dit, mais les actes des apôtres n'étaient que la charpente de l'Église. Autrement dit, il avait placé la charpente là, voyez, alors que les actes des apôtres étaient à l'intérieur. Et ces évangiles constituent la charpente qui permet de la maintenir unie et de la protéger. Vous voyez comment la pensée d'un homme peut faire n'importe quoi? N'eût été de lui, j'aurais pensé la même chose. Voyez, la charpente, la Pentecôte n'était pas la charpente de l'évangile. Ce sont les quatre évangiles qui constituent la charpente pour supporter la Pentecôte. Après la mise en place de cette charpente, la Pentecôte a vu le jour. Pas vrai? Lequel a été écrit en premier? Le livre des Actes ou ceux des apôtres? Ceux des apôtres. Jésus, sur sa route, faisait des œuvres et prédisait ce qui arriverait. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre gardes le suivaient et écrivaient tout ce qu'ils voyaient s'accomplir et rapportaient ces choses avec exactitude, annonçant ce qui arriverait et la manière dont cela arriverait. Et tout à coup, ils en ont bâti la charpente. Et voici, c'était là. Amen. Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est la charpente. Ou c'est le travail des gardes qui protège le temple principal, le trône, la bénédiction de Pentecôte. Pas la dénomination pentecôtiste, frères, sœurs. Ils sont complètement en dehors de la chose. Ah oui, ils en sont plus éloignés que toutes les autres églises. Ils en sont plus éloignés que l'étaient les luthériens. Les luthériens ont fait un peu mieux qu'eux. C'est vrai, ils en étaient plus près. C'est tout à fait vrai, Jean, parce que, eh bien, je n'ai pas vu Jésus se tenir à l'extérieur de l'église luthérienne, cherchant à y entrer, mais cherchant, parce que je pense qu'il n'a jamais été à l'intérieur pour commencer. Mais il était dans l'église pentecôtiste, et il en était expulsé. C'est vrai. Maintenant, Matthieu 10, 1. Bon, allons ici dans Jean 14, 12. Et voyons si Jean va soutenir et garder les précieuses choses de la Pentecôte. Dans Jean, chapitre 14, verset 12, Jésus parle. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Oh, frère, cette porte, c'est là où se tenait l'aigle, puisqu'il s'agit du service d'évangélisation, vous savez, volant comme un aigle. » Grâce à sa rapidité, il monte très haut là-bas, dans le pays prophétique. Voyez-vous, il peut voir d'avance les choses et dire les choses qui étaient, qui sont et qui viennent. Voyez, il est assis là pour en assurer la garde. Il a dit, les œuvres que je fais, observez cet aigle. Voyez, ici, c'est le lion, le serviteur. Jésus leur a donné la puissance et il protège cela. Il protège Actes 2, 38. Ce lion, il soutient cela complètement. Voici cette rapidité de l'évangile par cet aigle. Quand il dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même davantage. Parcourant le monde entier avec cela. Comme la colombe dont la tête de son compagnon avait été arrachée et son sang versé. Ce sang a aspergé le sol, criant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Cela purifiait le lépreux. Oui, maintenant j'en ai un autre. C'est Jean 15, 7. Prenons le chapitre 15. Verset 7. Si vous demeurez en moi, maintenant, et que mes paroles, pas la parole d'un séminaire, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pas vrai? Alors cet évangile est gardé juste là. Cette bénédiction de Pentecôte est gardée par Jean et son évangile. Elle est gardée par Matthieu, par son évangile. Maintenant, allons au prochain évangile. Marc, chapitre 16, pour voir si Marc a assuré la garde de cette bénédiction de Pentecôte. Marc, chapitre 16. Maintenant, commençons ici vers, après, parle de la résurrection. Maintenant, passons directement au verset 14 de Marc 16. Plus tard, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ils n'avaient pas cru ceux qui essayaient de leur apporter le message. Vous voyez, c'est pareil aujourd'hui. Les gens rendent témoignage du Saint-Esprit, et des gens disent, « Baliverne, c'est juste une bande d'exaltés. » Il leur a reproché la dureté de leur cœur, voyez, et leur incrédulité, ceux-là qu'il avait connus dans sa résurrection. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Quoi? Pour prêcher il n'y a qu'un seul évangile, mais quatre gardes. Prêchez cet évangile à toute la création. Maintenant, souvenez-vous, il les inclut tous, les quatre gardes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voyez, prêcher l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, vous devez passer par ceci, par le baptême. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oh, frère, croyez, s'il vous plaît. Et, c'est une conjonction qui permet de relier toutes ces phrases. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien maintenant, voyons, que disent les méthodistes? Si vous pouvez pousser des cris, mener une bonne vie, les baptistes disent, ayez simplement la foi et soyez baptisés. Les épiscopaliens disent, tenez-vous comme ceci, comme un épiscopalien, et inclinez-vous pendant la psalmodie. Les catholiques disent, récitez le « Je vous salue Marie ». Les pentecôtistes disent, adhérez à notre dénomination, soyez baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, voyez? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Là, il n'y a pas de Père, Fils, Saint-Esprit. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Oh, frère. Maintenant, revenons au chapitre 11. Là, nous sommes sur le point de terminer. Matthieu 11. J'ai noté les versets 20 et 21. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle dans tous ces passages, là. Ce n'est aucun de ceux-ci qui parle, mais c'est Jésus qui parle chaque fois. Le lendemain, après, ils sont arrivés près de Béthanie. Jésus eut faim. Apercevant un figuier, c'est là qu'il a maudit le figuier. C'est Matthieu 21. J'ai verset 12. Veuillez m'excuser. C'est Marc 11, 21 à 22. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit sur le chemin. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Ayez foi en Dieu. » Voyez, « Je vous le dis en vérité. » Donc, c'est à l'intérieur. « Vous le dis en vérité. » Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il peut obtenir, il le verra s'accomplir. Oh, la porte sud est gardée par le bœuf, la porte nord est gardée par le lion, la porte nord, je veux dire la porte est. » Et la porte nord est gardée par l'aigle qui vole, Jean, l'évangéliste. Et de ce côté-ci, c'est le médecin, Luc, l'homme. Maintenant, voyons ce que Luc dit. Prenons Luc, le premier chapitre. Je pense qu'on a Luc 10, 1 à 12. C'est la commission. Vous savez tous ce qu'il en est, mais Luc, chapitre 10, de 1 à 12. Très bien, nous pourrions le lire en entier, mais nous n'en aurons pas le temps. Partez, je commence au verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac. Vous voyez, n'y allez pas au nom d'une dénomination. Allez-y comme je vous envoie. Voyez, n'y allez pas après vous être assuré que vous recevrez 100 000 $ au terme de ce réveil. Sinon, vous refuserez d'y aller. Vous voyez, préparez vos campagnes. Il a dit, allez où je vous envoie. Vous voyez, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Ne vous arrêtez pas pour dire, je vais aller voir comment ceci se passe, comment c'est. Allez directement où je vous envoie. Ne prêtez attention à personne d'autre. À quelques maisons que vous entriez, dites que la paix soit sur cette maison. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reviendra, reposera sur lui. Sinon, elle retournera à vous. Demeurez dans cette heure-là, demeurez dans cette maison-là, plutôt. Mangeons et buvons ce qu'on vous donnera. Bon, toutes ces histoires à propos de ne pas manger de viande et ainsi de suite. Bonté, voyez, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Allez souper chez les Jones aujourd'hui, puis allez chez l'autre couple le lendemain, et l'autre couple le jour suivant. Restez dans un seul lieu. C'est pour cela que quand je vais dans une série de réunions, vous savez, je reste à l'hôtel. Et c'est là que je passe tout mon séjour. C'est exactement là que je trouve la paix. Voyez, n'allez pas de maison en maison. À quelques villes que vous entriez, là, lorsque l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades. Guérissez les malades qui s'y trouveront. et dites-leur, le royaume est, Dieu s'est approché de vous. Mais maintenant, eh bien, je vais lire le verset suivant. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez hors de la ville, dans le même jour. La poussière même de la ville qui s'est attachée à nos pieds, nous, bon, voyons voir, là, et nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'au jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Oh, frères, avec cette assurance bénie, s'ils ne voient pas et ne vous reçoivent pas, continuez. Dites simplement, si vous ne voulez pas de moi, je vais secouer la poussière de mes souliers et partir. Autrement dit, dites, je ne vous ai rien pris. Si je mange quoi que ce soit, je vous payerai pour ça. Et continuons. Il a dit, en vérité, chacune des villes où ils sont allés et où on ne les a pas reçus, toutes ces villes ont sombré et n'existent plus aujourd'hui. Toutes les villes qui les ont reçues, existent encore jusqu'à ce jour. Voilà. Maintenant, un dernier. Puis nous terminons. Voyons voir. Nous avons 10, 11, 29 à 31, Luc 11, 29 à 31. Puis nous allons terminer. Oh, j'aime cela. Comme le peuple s'était amassé en foule. Voyons voir. Est-ce Luc? Luc 11, 29? Oui, je pense que c'est bien ça. Oui. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante qui demande un miracle. Il ne sera donné à elle d'autre miracle que celui de Jonas, le prophète. Car de même que Jonas fut un signe pour Ninive, de même le Fils de l'homme en est un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera quand elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Que dis-je donc? En terminant, je vais devoir laisser tomber le reste de mes notes. Mais en terminant, je veux dire ceci, parce que je vous ai retenu si longtemps. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il viendra un jour où une génération méchante et adultère, eh bien, souvenez-vous-en, demandera un miracle. Et cette génération-ci est une génération méchante et adultère. Et il a dit, cette génération recevra un miracle. Regardez comme cela concorde avec le reste de la Bible, le signe de Jonas. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. De même, le Fils de l'homme a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Qu'est-ce que ça sera? Le signe de la résurrection. Voyez, le signe de la résurrection sera fait dans une génération méchante et adultère. Et c'est dans le livre des Actes que cela a été fait. Jésus est ressuscité des morts et est venu en Pierre, Jacques, Jean et les apôtres. Ils ont produit ce livre des Actes. Ce n'étaient pas les Actes des apôtres, c'était les Actes du Saint-Esprit qui œuvraient dans les apôtres. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui œuvre par un homme ou des hommes et qui fait l'œuvre. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un vase, mais c'est le Saint-Esprit qui est l'huile qui se trouve dans ce vase. Voyez? Et regardez ce qu'ils ont accompli. Regardez les miracles de Jésus qu'ils ont accomplis. Ils ont été forcés de prêter attention à eux parce que ils étaient ignorants, sans instruction, Pierre et Jean. Mais ils ont été forcés de prêter attention à eux car ils avaient été avec Jésus. Ils accomplissaient les choses qu'il avait accomplies. Vous voyez donc que chaque livre de la Bible, les 4 livres, les 4 évangiles, gardent la bénédiction de Pentecôte. Et chaque passage de l'Écriture confirme parfaitement ce qu'il disait. Ainsi donc, les Actes des apôtres et les 4 évangiles confirment aujourd'hui que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. L'aimez-vous?
Baptized with the Holy Ghost and power for service came. What he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Je vais le chanter. Ils étaient là, dans la chambre haute, priant tous en son nom, baptisés du Saint-Esprit et revêtus de puissance. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera aussi pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, bien que ces gens n'aient aucune prétention, pas tout comme Pierre, Jacques et Jean, ni célèbres dans le monde. Ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés au nom de Jésus. Et ils déclarent maintenant partout que sa puissance demeure pareille, exactement comme elle l'a toujours été. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ça séduit beaucoup de ces gens. Il y a beaucoup de gens là, dans la rue, qui vont à l'église, qui font partie des églises. Ils sont séduits comme Ève l'a été au commencement. Ils ne savent pas faire mieux. Oh, venez prendre l'arbre de vie. Maintenant, au lieu des chérubins, là, je veux dire quelque chose. Au lieu que ces chérubins empêchent l'accès à ce trône, ils sont là à chercher. Ils essayent de diriger les gens, de les conduire au trône. Ils essayent de les faire entrer par la porte, de les ramener à l'arbre de vie, pour qu'ils puissent prendre ceci. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est vrai. Oh, je suis si heureux. Combien y a-t-il de malades dans la salle? Faites voir vos mains. Levez la main. Très bien. Combien ont... Est-ce que j'ai bien compris, Billy? Où est-il? Est-ce qu'il a distribué des cartes de prière? Avez-vous... Très bien. Qui a... Maintenant, regardez par ici, vous tous. Là, c'est exactement comme ça que c'est ici, sous la gloire. Vous voyez? Voyez? Ça vient... C'est la lumière qui est là. Vous vous déplacez, vous voyez? Bon, regardez. C'est juste un reflet. Ça, c'est juste un reflet. Voyez? Ce n'est pas la lumière. Voici la lumière qui est suspendue juste ici. Voyez, juste ici, au-dessus de cette femme. Je viens juste de saisir cela et je me suis dit que c'était au-dessus de quelqu'un. Maintenant, vous en voyez une et moi, j'en vois deux. L'une d'elles, c'est le naturel et l'autre, c'est le surnaturel. Il y a un homme assis au bout de cette rangée-ci, le long de cette allée. Il regarde vers cette lumière. Ça l'a frappé. Il vient de Seymour, dans l'Indiana, et il a eu une attaque. Si vous croyez, monsieur, Dieu vous guérira de cette attaque. Amen. Croyez maintenant. Croyez-vous de tout votre cœur? Alors, si le Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, me permet de faire quelque chose pour vous prouver que c'est Dieu, alors, croirez-vous de tout votre cœur? Votre état, vous souffrez de nervosité, et c'est causé par la ménopause. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Vous n'êtes pas d'ici non plus. Quel est votre problème? Et si c'est le cas, qu'il va vous rétablir? Vous rétablir, parce que ce n'est pas vous qui désirez être rétabli, c'est votre fils. Voyez, il est en Virginie. Croyez-vous que je peux vous dire ce qui ne va pas chez lui? Avec l'aide de Dieu, il a des ulcères. C'est vrai. Et il y a autre chose qui ne va pas chez lui. Il n'est pas sauvé. Et vous priez pour lui. Maintenant, Madame Baker, retournez à Somerset et croyez de tout votre cœur. Jésus-Christ va le rétablir. Vous rétablit, l'acceptez-vous comme votre guérisseur? Si vous pouviez, guérisseur. Paul a dit une fois, cet auditoire qui a écouté attentivement jusqu'à ce moment-ci de la journée, Seigneur, maintenant, Seigneur Dieu, je te prie afin que ta miséricorde et ta bonté reposent sur eux. Satan, je te défie au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens. Ils sont restés si longtemps pour écouter l'Évangile. Tu ne peux plus les retenir. Que la puissance du diable qui lie ces gens les quitte.